Il est 6h57, je vous souhaite une très belle journée, une très belle matinée et je vous dis aussi un grand merci pour votre fidélité au 5-7. Vous êtes de plus en plus nombreux à commencer votre journée avec nous dès 5h du matin, 560 000 chaque jour depuis la rentrée de septembre avec 55 000 nouveaux auditeurs à qui je souhaite la bienvenue. Je vous retrouve lundi dès 5h, très bon week-end, vous restez bien sur Europe 1, c'est le 7-9 qui démarre. Bonjour
bon
Mathieu Béliard.
Bon week-end Sébastien et bravo pour vos audiences.
Merci
évidemment
beaucoup.
En publication de Médiamétrie hier, Sébastien Krebs qui vous réveille tous les matins dès 5h sur Europe 1. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on démarre avec une note d'espoir. Vous allez comprendre. L'équipe du troisième volet des aventures de SS-117 a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Nicolas Bedos à la réalisation, Jean Dujardin dans le rôle de cet agent secret franchouillard décalé. Alerte rouge en Afrique noire. Extrait.
Que savez-vous de l'Afrique ?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards.
Ce sont nos amis. Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. En ce moment, ils voient du racisme partout.
Et vous faites ça aussi en France ?
Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage, d'ailleurs.
Alors, je vous passe cette bande-annonce d'abord parce qu'elle nous a fait rire, faut être très clair. Mais surtout parce qu'à la fin de la bande-annonce, il y a écrit « Prochainement au cinéma ». Et qu'on a envie de croire qu'on sera de retour en salle d'ici là. Parce que pour le moment, et c'est à la une ce matin, un nouveau couvre-feu généralisé à 18h dès samedi. Contrôle aux frontières renforcé, des nouvelles mesures à l'école, la course à la vaccination, on va en parler. Les annonces de Jean Castex, la gestion jour après jour et les perspectives pour la suite. Réaction de l'opposition en direct ce matin à 8h15, Christian Jacob, le patron des Républicains au micro de Sonia Mabrouk. À 7h40, tout autre chose, de la musique avec une voix que vous connaissez et qui fait l'actualité cette semaine. Pascal Obispo qui se lance dans la vente directe, dans le fait maison, oui, une application avec abonnement pour écouter sa musique, toute sa musique. Pour 6€ par mois, vous avez tout Obispo, mais payeriez-vous 6€ pour n'avoir que du Obispo ? Il va nous expliquer sa démarche sur Europe 1 ce matin, ses ambitions. Entretien Pascal Obispo, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour, 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 bonjour mon cher Mathieu. Nous allons vivre une journée dans l'ensemble qui sera pas trop désagréable, notamment sur la moitié nord de la France, puisque les éclaircies vont s'imposer. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, soit il fait mauvais, soit il y a de la neige, soit il y a de la pluie en ce moment, soit même nous avons des brouillards, eh bien ils vont s'effacer. Le froid s'infiltre, il prend le pouvoir, mais pour peu de temps. Une zone de pluie océane arrivera demain par l'ouest. La pluie sera là demain en Manche. Il pourrait neiger demain matin sur la Normandie et sur la région parisienne. La douceur relative reprendra le dessus ensuite dimanche. Et nous aurons tout au long de la semaine prochaine un temps relativement doux, mais souvent pluvieux, avec des températures, quand je dis douceur, de 8 à 11 degrés. Et il sera souvent pluvieux ce temps. Mais enfin, nous en reparlerons tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement.
18h, tout le monde à la maison. Jean Castex annonce aussi des mesures pour les écoles. Elles restent ouvertes, mais avec un protocole renforcé, dossier dans ce journal. La campagne de vaccination va s'accélérer. Dès lundi, elle concernera aussi les personnes les plus fragiles, quel que soit leur âge. Reste une grande question, est-ce qu'on est toujours contagieux une fois qu'on a été vacciné ? Nous tenterons d'y répondre. Plus de 8,5 millions de foyers reçoivent aujourd'hui les avances de crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile. Virement direct sur le compte en banque. Encore beaucoup de neige aujourd'hui sur l'est de la France. Nous irons dans les Vosges où de nombreuses familles goûtent aux joies de la glisse, mais en luge, attention danger. Et puis Gatsby le magnifique, 1984 ou L'appel de la forêt. Ces romans entrent dans le domaine public en 2021, ce qui ouvre la voie à n'importe quelle adaptation.
Juste après ce journal, un an après le début de la pandémie en Chine, le Made in China est plus en forme que jamais. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international, Vincent Hervouet. La Russie aux mondiaux de handball, malgré sa suspension pour dopage. Hypocrisie, dit Virginie Fulpin dans l'édito sport. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous faisiez quoi, vous, hier soir à 18h ? Vous suiviez sans doute les annonces de Jean Castex et du gouvernement comme tout le monde ? Ou presque ? Parce que certains Parisiens avaient mieux à faire, profiter d'un des derniers apéros après le travail, puisqu'à partir de demain, c'est couvre-feu à 18h dans toute la France. Écoutez le reportage de Laura Taouchanoff.
Il ne remarque même plus la pluie glaciale de cette soirée de janvier. Camille et Martin profitent d'un dernier instant de liberté devant leur bistrot de quartier, de bière emportée dans un gobelet en plastique.
On ira prendre des pentes à 16h, hein, s'il faut. On fera des pauses dans la journée de travail et puis voilà, mais on a besoin de s'aérer. Donc là, ça devient trop dur le télétravail. Sinon, on va péter un plomb.
De toute façon, ça fait un an qu'on s'adapte à tout. Je crois que l'année est placée sous le signe de la résilience. Et donc, on continuera à faire preuve de résilience.
Mais s'adapter devient de plus en plus difficile. En ce début d'année, pour Baptiste et ses amis, les yeux dans le vide autour d'un vin chaud.
Le couvre-feu à 20h, c'était compliqué pour faire des apéros. Donc là, à 18h, je vais juste faire une croix dessus, quoi, parce que j'ai pas le temps, je dois travailler, mais j'en boirai tout seul chez moi. Devoir tout arrêter comme ça, ça porte un peu sur le moral quand même. Tout est un peu gris, quoi.
Je vais juste donner un peu de pourboire.
Un œil sur sa montre, bientôt 20h, Lilia commande vite un dernier verre en soutien au gérant.
Il est dépité, ça va pas, il coule, quoi. C'est pour ça que je suis partie lui donner un pourboire, c'est pour ça que je suis venue que j'ai consommé encore plus. Je suis très empathique, c'est plus pour lui que ça m'énerve. C'est du soutien français.
Avec une fermeture avancée de 2h, ce restaurateur perd une centaine de clients.
Adieu l'apéro donc, le couvre-feu à 18h, c'est pour au moins 15 jours. Jean Castex n'exclut pas un nouveau confinement si la situation se dégrade. Le Premier ministre veut également freiner la propagation du virus dans les établissements scolaires.
Oui, surtout avec le variant anglais, des mesures plus strictes pour les cantines, avec éventuellement des paniers repas à manger en classe, mais aussi l'interdiction du sport en intérieur, que ce soit à l'école ou pour les activités extrascolaires. Virginie Riva, bonjour, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Alors pour les profs, ces mesures sont insuffisantes.
Oui, pour le SNES, syndicat du secondaire, ces mesures ne sont pas à la hauteur de la situation. Perplexité des directeurs d'établissement également. Sur le moment qui pose le plus problème, la cantine, Bruno Bobkiewicz est représentant du syndicat des proviseurs. Impossible, selon lui, de diminuer encore le brassage.
Sur la cantine scolaire, objectivement, je ne vois pas quelle est la marge de manœuvre supplémentaire. Parce que ce qu'on a déjà pu faire, on l'a fait. Donc j'ai entendu la possibilité, les repas à emporter. On a quand même des normes d'hygiène qui s'imposent aussi dans les établissements scolaires. Donc on ne peut pas déjeuner n'importe où, et d'ailleurs sous la surveillance de qui ?
Concernant le sport interdit en intérieur, les proviseurs redoutent là un casse-tête pour savoir quoi mettre à la place en plein mois de janvier alors qu'il fait froid dehors. L'annonce qui satisfait plutôt, c'est sur les tests. Tests systématiques à partir de 3 cas. Hier, c'était 1, mais l'arbitrage a changé pour tracer et isoler. Mais aussi campagne à l'aveugle dès qu'il y a un risque sur un territoire. Une bonne nouvelle pour Guylaine David à la tête du SNUIPP, syndicat du primaire.
C'était une demande de tester massivement, notamment pour avoir un niveau d'information sur la contamination et notamment sur les cas asymptomatiques, parce que c'est ce qui nous pose problème dans les écoles, on les voit pas ces cas-là. Par ailleurs, ce qui n'est pas clair pour le moment, c'est la mise en œuvre de ces tests, c'est-à-dire qui va faire ces tests et comment ça va se mettre en œuvre sur le terrain.
Pour l'instant, seulement des dizaines de milliers de tests ont pu être déployés, alors que Jean-Michel Blanquer en annonçait 1 million disponibles dès novembre.
Alors en revanche, Virginie, la grande incompréhension, c'est chez les étudiants. Le Premier ministre reçoit ce matin les présidents d'université, les organisations étudiantes. Tous espèrent plus d'annonces qu'hier soir.
En réalité, à ce stade, rien de nouveau, si ce n'est un retour en demi-groupe en TD uniquement pour les premières années. À partir du 25 janvier, le président de la FAGE, le principal syndicat étudiant, Paul Maillot, est très déçu.
Une seule mesure annoncée pour 2,7 millions d'étudiants et dont la quasi-totalité a atteint un point de non-retour en termes de détresse psychologique, financière ou au niveau académique, c'est dénué de sens.
Les étudiants qui avaient pourtant eu le sentiment d'avoir été entendus par le ministère cette semaine, surtout après les suicides d'étudiants, les présidents d'université parlent d'une première étape et attendent ce matin des réponses sur la rentrée de février pour tous les étudiants.
Merci Virginie Riva. Et parmi les autres annonces, des mesures plus sévères aux frontières, tous les voyageurs arrivant d'un pays extérieur à l'Union européenne devront présenter un test datant de moins de 72 heures.
La campagne de vaccination va également s'accélérer. À partir de lundi, elle concernera aussi les malades souffrant de pathologies à haut risque, quel que soit leur âge.
Et pour l'instant, 318 000 personnes précisément ont été vaccinées en France. Mais une importante question se pose. Est-ce qu'on peut transmettre le virus une fois qu'on a été vacciné ? On va tenter de répondre à cette question avec vous, Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est plutôt optimiste.
Alors il repose sans doute sur des données publiées en Israël qui comptent déjà 2 millions de vaccinés, mais également sur les essais cliniques du vaccin Moderna, parce qu'il faut bien comprendre que pour savoir si l'on reste contagieux après la vaccination, eh bien il faut savoir s'il nous reste du virus dans le nez ou la gorge. Or justement dans les essais Moderna, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, infectiologue et spécialiste des vaccins, dans ces essais, les scientifiques ont fait un prélèvement nasopharyngé avant la deuxième injection.
Ils ont regardé s'il y avait plus ou moins de gens qui portaient de manière asymptomatique le virus dans le groupe vaccin. Et là, il y a une diminution.
Une diminution des formes asymptomatiques qui n'est pas aussi marquée que la diminution des formes graves, mais c'est quand même un espoir. Il va falloir désormais des études complémentaires pour confirmer et quantifier cet effet.
Anne Le Gall, et à partir de ce matin, 8h, les personnes qui souffrent de pathologies lourdes et les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Voilà le numéro vert, c'est le 0800 009 110, 0800 009 110, ou alors il y a le site internet santé.fr. Aux États-Unis, touchés de plein fouet par la pandémie, Joe Biden annonce un méga plan de relance économique, 1900 milliards de dollars. On va y revenir dans le journal de 7h30.
7h07 sur Europe 1. Si vous employez une babysitter, une femme de ménage ou encore une aide à domicile, vous aurez une bonne surprise aujourd'hui.
Oui, vous allez en effet recevoir une avance de 60% sur les crédits d'impôt de l'année 2020. Le virement tombe directement sur le compte, Carole Ferry.
C'est ça, vous pourrez donc le voir sur votre compte en banque sous l'appellation avance crédit d'impôt. Cela concerne plus de 8,5 millions de foyers fiscaux pour un montant moyen de 640 euros. Mais bien sûr, c'est une moyenne et tout dépend de vos dépenses réelles. Un exemple, si vous dépensez 2,000 euros par an pour l'emploi d'une femme de ménage, le crédit d'impôt prévoit de vous rembourser la moitié, donc 1,000 euros, et vous recevrez aujourd'hui 60% de cette somme, c'est-à-dire 600 euros. Le complément est versé en général juste avant l'été et ajusté en fonction des sommes indiquées sur votre déclaration de revenus. Elle doit être remplie, je vous le rappelle, au mois d'avril. Pour ceux qui refusent de donner leurs coordonnées bancaires au fisc, eh bien un chèque est envoyé à domicile. Il devrait arriver d'ici la fin du mois. Une avance qui coûte au total 5,5 milliards d'euros à l'État, mais qui permet de faciliter les déclarations d'emploi à domicile et donc de lutter contre le travail au noir.
Carole Ferry, on vous avait parlé de cet employé de Deliveroo qui refusait de livrer des restaurateurs juifs à Strasbourg. Il a été condamné hier à 4 mois de prison ferme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que cet Algérien allait être expulsé du territoire français.
9 départements de l'Est sont ce matin en vigilance orange, neige, verglas. Beaucoup de flocons, notamment dans les Vosges, pour le plus grand bonheur des familles qui, faute de ski, s'offrent de belles glissades en luge.
Oui, mais prudence, il y a eu plusieurs accidents le week-end dernier. Arthur Elmbaché, vous vous êtes rendu dans la station du Tannet près de Münster et vous avez rencontré des secouristes qui n'ont pas chômé.
Avec le capitaine Raoul Joss qui se souvient de l'anarchie ici le week-end dernier. Les fauves étaient de sortie, dit-il.
Oui, oui, il y avait du monde. En fait, il y en avait ici. Ça, c'est donc la piste noire ici, là où on voit les cailloux qui sortent là-bas.
C'est très raide. Hein.
Voilà, ils partaient en luge de là-bas. Il y avait des bosses en bas, ils faisaient des sauts.
Alors qu'il y a des pylônes, des rochers.
Ah oui, oui, oui. Quelqu'un qui se prend un pylône, là, ça pardonne pas ou la cabane.
C'est une adolescente de 17 ans qui s'est tuée en luge dimanche dernier, pas très loin d'ici. Le lieutenant-colonel Milanesi dirige les pompiers secouristes de montagne.
C'est certainement un des derniers terrains de jeu qui est accessible à tout le monde, qui est gratuit. Et le fait de ne pas avoir de piscine, de ne pas avoir de cinéma, de ne pas avoir de possibilité d'activité en pleine, va générer beaucoup d'afflux dans ce qui reste ouvert et en plus qui est ludique et qui est sympa. Avec cette année, la chance de la présence de la neige. Et mon rôle, c'est d'anticiper ce qui peut se passer en termes d'organisation des secours. On a procédé à un rappel des troupes, je dirais. Donc on a demandé à tous ceux qui étaient disponibles de se libérer en tenue, prêts à partir, pour des interventions un peu particulières.
Notamment avec ce tout nouveau petit véhicule à chenilles qui permet de rejoindre rapidement le lieu d'un accident.
Arthur Elmbaché à la station du Tannet en Alsace pour Europe 1.
Un peu de lecture, Jack London, George Orwell ou Scott Fitzgerald, leurs romans tombent dans le domaine public cette année.
Oui, des œuvres publiées en 1925 qui deviennent donc libres de droit et ne sont plus protégées. Nicolas Caro.
Évidemment, pour les ayants droit, c'est une mauvaise nouvelle. Gatsby le Magnifique, par exemple, de Scott Fitzgerald, continue à se vendre au rythme de 400 000 exemplaires par an. Joli manque à gagner. L'œuvre appartient à tous maintenant et donc plus de droits d'auteur à payer pour la version originale. Mais cette entrée dans le domaine public implique aussi que n'importe qui peut s'emparer de l'œuvre pour en faire n'importe quoi. Le fils de Gatsby, Gatsby et les 40 voleurs, ou même Gatsby contre Mrs. Dalloway, si on veut. Le roman de Virginia Woolf est lui aussi libre de droit. comme tous ceux publiés en 1925. Attention, il ne s'agit que des œuvres originales, pas des traductions récentes en français par exemple. Dans cette catégorie, la traduction de L'appel de la forêt de Jack London par Raymond de Galard entre aussi dans le domaine public en 2021. Le procès de Franz Kafka, idem, ou En marge des marées de Joseph Conrad, mais aussi le célèbre 1984 de George Orwell.
Nicolas Caro.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard. Je suis tombé pour elle.
Vous l'avez bien sûr reconnu, Pascal Obispo qui vient de lancer son application payante et qui désormais se passera de maison de disques et de plateforme. Un virage dans sa carrière, une démarche innovante. On a quelques questions à lui poser, Pascal Obispo, invité du Tête-à-Tête Europe Matin, tout à l'heure à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Un an presque jour pour jour après l'annonce du premier décès lié au Covid en Chine, la deuxième économie mondiale bat des records.
Oui, et c'est tout de même un sacré paradoxe. La Chine est le grand gagnant économique de la pandémie dont elle est à l'origine et dont on peut dire qu'elle a contribué à la diffusion puisqu'elle a masqué son existence au début et tardé à sonner l'alerte. Pendant que le monde plongeait en récession, eh bien la Chine, grâce à sa maîtrise rapide de la pandémie, a battu des records d'exportation, 2600 milliards de dollars l'an dernier, du jamais vu.
Les tarifs douaniers américains n'ont pas changé la donne ?
Absolument pas, à peine une petite égratignure dans la machine à exporter. La demande a notamment été très forte pour tous les produits liés de près ou de loin à la pandémie. Les ordinateurs portables, le matériel médical, etc. Le confinement dans les pays occidentaux a aussi favorisé le made in China pour une autre raison. Les dépenses que les ménages ne faisaient plus en sortie, en restaurant, en loisirs, bref, en service, eh bien, ils les ont reportées en partie sur des achats de biens souvent fabriqués en Chine.
D'où des excédents commerciaux records.
535 milliards de dollars l'an dernier, mais surtout, la leçon que l'on doit retenir, c'est que cette crise aura permis à la Chine, en fait, de creuser l'écart, d'augmenter ses parts de marché dans les industries où elle était déjà puissante, mais surtout d'accélérer dans des secteurs comme l'automobile, notamment électrique, pendant que le reste du monde était à l'arrêt. Ce qui fait qu'à l'heure du bilan, après un an de crise, eh bien, la deuxième économie mondiale est un concurrent encore plus redoutable et chaque mois qui passe avant notre propre sortie de la pandémie renforce cette puissance avec les conséquences que l'on connaît en termes de destruction d'emplois dans les classes moyennes des pays développés. Vivement le vaccin, l'immunité collective et qu'on en sorte.
Merci Nicolas Barré et une bonne année à vous aussi hein, puisque année. Vous faisiez votre liste de vœux à la fin de la chronique. 7h15 sur Europe 1, c'était l'éclairage éco. On va rester en Chine dans le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Pour le meilleur et pour le pire. Bonjour
oui.
À tous.
Deux Canadiens en prison, en Chine, depuis 2 ans. Hier, on a appris qu'ils avaient pu téléphoner à leur famille pour les fêtes.
Oui, enfin, des nouvelles des deux Mike, Michael Kovrig et Michael Spavor. Les deux Canadiens ont en commun le prénom, le passeport et le malheur. Ils n'ont pas le même bagage, un ancien diplomate devenu chercheur dans un think tank et un consultant pour l'export. Deux quinquagénaires disparus en sortant de l'hôtel, jetés aux oubliettes, puis inculpés pour espionnage, à l'isolement et menacés d'une corde. Évidemment, c'est une mauvaise blague. Ils doivent servir de monnaie d'échange. Ça fait 2 ans qu'ils croupissent. On se croirait dans une république bananière. Mais non, c'est bien en Chine qui prétend devenir donc la première puissance au monde, comme disait Nicolas Barré.
Ils ont été arrêtés juste après que la fille du fondateur de Huawei a été interpellée au Canada.
Oui, Meng Wanzhou est la directrice financière de la firme de papa. Les Américains l'accusent d'avoir tenté de contourner l'embargo qu'ils ont décrété contre l'Iran et d'avoir menti à la banque HSBC pour financer l'opération. Ce crime est une nouvelle illustration de la toute-puissance commerciale que s'arrogent les États-Unis avec leur extraterritorialité. Tous les coups sont permis contre Huawei. Depuis 2 ans, des armées d'avocats bataillent et Ottawa hésite à livrer l'héritière. Elle reste pour l'instant coincée dans sa splendide maison de Vancouver.
Les deux Canadiens ont une vie plus spartiate.
Ils ne sont pas détenus dans la même prison, mais ils subissent un vrai calvaire. Pékin fait exprès de les humilier. Ils ont enfin été autorisés à passer un coup de fil pour raisons humanitaires. Le gouvernement chinois ajoute que les prisonniers et leurs familles ont tenu à exprimer leur profonde reconnaissance. Et ça, c'est le détail qui tue. Cette détermination du bourreau à arracher le consentement de la victime. Le seul contact des deux Mike avec le monde extérieur, c'est la visite épisodique d'un représentant du consulat. Mais de janvier à octobre dernier, ils n'ont vu personne. Les visites étaient suspendues à cause du Covid. Et on pourrait faire un tour du monde des mauvais coups portés aux libertés, à la parole donnée, aux droits élémentaires, au nom du Covid. Le Covid est partout un formidable alibi au cynisme d'État. Alors, entre la loi féroce qu'imposent les Américains et la tyrannie sans complexe des Chinois, le Canada est pris en étau et ça pend au nez des Européens. Tôt ou tard, on s'appellera tous Mike.
Merci Vincent Hervouet. Le Covid a bon dos parfois, vous avez raison de le souligner. Le regard international tous les matins sur Europe 1, 7h18 tout de suite. Malgré sa suspension pour dopage, la Russie participe bien aux mondiaux de handball sous une bannière neutre. Hypocrisie des organisateurs pour Virginie Fulpin. Dans un instant, l'édito sport.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h20 sur Europe 1 et c'est un rendez-vous que vous attendez, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus ont battu la Norvège 28 à 24 hier pour leur premier match au mondial de handball. C'est pas le sujet dont on va parler, les Bleus. La Norvège, on est d'accord, ça fait partie des favoris dans ce mondial de handball. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Bleus, on va le souligner. La Russie participe à cette compétition sous bannière neutre car le pays est suspendu, vous vous en souvenez, de toute compétition internationale pour dopage. Pour vous Virginie, que cette équipe puisse participer au mondial, c'est vraiment l'hypocrisie la plus totale.
Attention, hein, on ne dit pas la Russie au mondial de handball, on dit l'équipe de la Fédération russe de handball.
Ah oui.
Nuance, hein. Et cette équipe n'a pas d'hymne ni de drapeau, elle joue sous bannière neutre, comme on dit. Imaginez, si elle venait à remporter le championnat du monde, on serait perdu, hein, on ne saurait pas du tout qui a gagné. Et à Moscou, personne ne se féliciterait de cette victoire, hein, évidemment. Vous comprenez que je trouve ça complètement hypocrite. C'est une sanction sans en être une. La Russie a organisé un vrai dopage d'État, ça a été prouvé. Et c'est pour ça que le tribunal arbitral du sport lui a infligé 2 ans de suspension de toute compétition internationale dans tous les sports. Alors voir cette équipe présente quand même, bah, ça passe pas. La seule vraie punition digne de ce nom aurait été une exclusion. D'ailleurs, c'est ce que craignait la Russie. Là, avec cette demi-sanction bâtarde, on arrive à un point où la Russie peut ressortir gagnante. D'accord, je sais que ça va être un petit peu dur à avaler d'être sous bannière neutre. Je n'aimerais pas voir les Bleus, moi, jouer sans entendre la Marseillaise. Mais bon, pour ça, il fallait réfléchir avant et puis ça va aller, ils vont s'en remettre. Hein. Au moindre match gagné par cette équipe de la Fédération russe de handball, ils vont pouvoir raconter une jolie histoire, celle de la pauvre victime plus forte que tout qui parvient à s'imposer malgré l'adversité. Franchement, c'est décourageant.
Oui, on a presque l'impression qu'on leur donne un coup de main. Enfin, Virginie, les joueurs qui sont présents dans cette équipe, ils ont quand même dû montrer patte blanche.
Bah oui, heureusement, ils ne sont pas arrivés avec un contrôle positif pour leur servir de billet d'entrée. Hein, on ne va rien exagérer. Bien sûr que les joueurs présents sont propres, entre guillemets, ou alors ils ont déjà purgé leur peine. Par exemple, moi, je ne vois aucun problème à ce que dans les sports individuels, une ou un sportif russe s'aligne sous bannière neutre dans les compétitions internationales. On ne peut pas individuellement les écarter de tout, les soupçonner tout juste parce qu'ils sont russes, évidemment. En revanche, dans les sports collectifs, comme le handball aujourd'hui, c'est différent. Certes, les joueurs ne représentent pas officiellement leur pays, mais on dit quand même équipe de la Fédération russe, et cette fédération est un organe de l'État, où le dopage a été l'objet d'une véritable organisation. C'est pour ça que je trouve la situation complètement hypocrite. Si on veut vraiment lutter contre le dopage, ce genre de demi-sanction, pour moi, ne peut pas être suffisant.
Merci Virginie Fulpin, et c'est bien de le rappeler. La nuance, peut-être, par rapport à d'autres affaires de dopage qu'on a pu connaître par le passé, c'est que, là, vous l'avez souligné, hein, c'est un vrai dopage d'État qui a été organisé, éprouvé, organisé par la Russie en l'occurrence. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'est l'édito sport, tous les matins, sur Europe 1, 7h23. Et comme tous les jours, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, une expression qu'on utilise de moins en moins, et j'avoue, c'est bien dommage. Je voulais parler de « attire-larigot ».
Ah oui, alors ça, c'est de l'argot, et ça signifie « en grande quantité ». On disait souvent « boire attire-larigot ».
Oui, ça sent le vécu. Hein, alors surtout Mathieu, on n'oublie pas le « tirer » entre « tire » et « larigot », même si on a plus souvent l'occasion de le dire que de l'écrire. Au XVe siècle, « tirer » est souvent associé à la boisson. On sait que quand le vin est tiré, il faut le boire. Quant au larigot, c'est une flûte, pas à champagne, non, une vraie flûte dans laquelle on souffle pour faire de la musique. Et il faut avouer que quand, en effet, quand on tient une flûte verticalement, cela ressemble à l'action de boire. L'association des deux en fait naître l'expression. Mais attention, il existe une autre hypothèse pour tire-larigot. Partons pour la Seine-Maritime, à Rouen précisément. Sa cathédrale gothique est la 3e plus haute du monde.
Magnifique.
Et en son sein, la cloche Rigaud, offerte fin 13e siècle par l'archevêque Eudes Rigaud qui lui a donné son nom. Cette fameuse cloche avait besoin de 12 hommes pour la tirer. On dit même qu'une somme d'argent était prévue pour que l'on offre du vin au gros bras chargé de la faire sonner. La promesse de s'enivrer après avoir tiré l'arigot a donné l'expression, ainsi qu'une très belle chanson un peu paillarde que je ne me risquerai pas d'entonner ici. Enfin, sachez qu'aux États-Unis, on ne dit pas « boire attire l'arigot », mais « like there is no tomorrow », comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mon conseil de modération du jour, c'est que justement, n'oubliez jamais qu'il y a toujours un lendemain.
Oui, parfois c'est même difficile, ce lendemain. 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre.
Et aujourd'hui, on réunit des dieux du sable. Isabelle Eberhardt, qui s'était déguisée en bédouin pour rejoindre le désert algérien. René Caillé, premier Européen à avoir été et surtout être revenu de Tombouctou. Et un dieu du sable fin de Malibu qui, depuis, connaît une traversée du désert, un certain David Hasselhoff.
À tout à l'heure, 16h. 7h25 sur Europe 1, dans un tout petit instant, la météo avec Laurent Cabrol et le journal de 7h30 avec Sophie Echen. J'attire votre attention sur la une du journal. Nous vous emmenons aux États-Unis. Joe Biden, qui n'est pas encore officiellement président des États-Unis, il est président-elect, président élu, il a présenté son plan de relance, un plan massif. 1900 milliards de dollars, des chèques qui vont être versés aux Américains, un salaire minimum augmenté, vous allez l'entendre, c'est à la une du journal de 7h30 dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil à tous. 7h28 sur Europe 1, nous sommes avec Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Et la météo essuie-glace. Allez, un petit coup de froidure, un petit coup de douceur, un petit coup de froidure, un petit coup de douceur. Là, nous sommes dans la froidure qui vient d'arriver, qui arrive à l'heure où nous parlons, et elle sera, bon, elle sera pas très durable. 3 jours, et ensuite nous aurons de la douceur et de la pluie, ça sera la semaine prochaine. Donc la froidure est là, en ce moment, 0 à Lille, 3 à Paris, vous voyez que ça a bien baissé, 7 à Clermont-Ferrand, 8 à Lyon, mais avec aussi de la neige, à Nancy, Colmar, Épinal, Strasbourg, les compris, c'est dans l'Est, dans des contrées où vous êtes habitué, mais en fin de matinée quand même, le ciel deviendra beaucoup plus lumineux dans ces régions, donc la neige pour peu de temps. Et puis nous aurons toute la journée un peu de pluie, un peu de neige à partir de 300 mètres sur la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le Berry, l'Auvergne et les Cévennes. Maintenant voyons les éclaircies. Côté Manche, là-haut, pom, 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 c'est pas mal. Côté Atlantique, toutes les régions qui bordent l'Atlantique éclaircies également. Et puis sur un temps plus calme, près des frontières du Nord-Est et sur le Poitou-Charentes et la vallée de la Loire. Attention le vent, Languedoc, Roussillon, Provence, un vent fort, 90 à 100 km/h et le Midi-Pyrénées va également ressentir ses bouffées de vent. Un temps très agité enfin, je termine sur la Côte d'Azur et la Corse, tout le monde a été servi. Oui, je crois. Température maximale entre 4 et 8. Je vous le disais, ça baisse.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe, hein, il est 7h30.
A two-step plan to build a bridge to the other side of the crisis we face to a better, stronger, more secure America.
Un plan en deux étapes pour construire un pont au-dessus de la crise à laquelle nous faisons face. Joe Biden a présenté cette nuit son plan pour relancer le pays en pleine crise économique avec une somme astronomique, 1900 milliards de dollars. Dans moins d'une demi-heure et après un faux départ hier, les inscriptions en ligne pour se faire vacciner seront ouvertes pour les plus de 75 ans. Le couvre-feu avancé à 18h partout en France. Dès demain, il va falloir s'organiser notamment pour les courses. Embouteillage à prévoir dans les supermarchés. Dans ce journal, le préfet de police de Paris et plusieurs hauts magistrats visés par une enquête pour faux témoignages. Et puis le soulagement du boulanger de Besançon à la fin de ce journal, son apprenti guinéen menacé d'expulsion a finalement été régularisé.
Juste après ce journal, il lance une application payante et compte se passer des maisons de disques. Le chanteur Pascal Obispo, invité du tête-à-tête Europe Matin. Dans le dossier Carrefour, de quoi se mêle Bruno Le Maire? C'est l'édito politique de Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Christian Jacob, président des Républicains. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un chiffre qui donne le tournis, 1900 milliards de dollars. Alors que les projecteurs sont braqués sur Donald Trump et sa fin de mandat chaotique, Joe Biden a présenté l'année dernière les contours de son plan de relance économique. 1900 milliards de dollars, c'est environ 10% du PIB américain. Un projet massif, Alexis Guilleux, pour tenter de sortir le pays de la crise.
Oui, cela faisait des mois que les démocrates demandaient un plan d'aide à la hauteur de la crise que traversent les États-Unis. Cette crise, cette profonde souffrance humaine est bien visible, dit Joe Biden. Il n'y a pas de temps à perdre, nous devons agir maintenant. Alors concrètement, le président élu propose de compléter l'aide directe aux Américains. Un chèque de 1 400 $ pour les plus démunis, il s'ajoute aux 600 $ reçus en décembre. Un autre volet est alloué à la lutte contre la pandémie pour amplifier la vaccination, la campagne de tests et mettre en place des congés payés en cas de contamination au Covid-19. Et une autre enveloppe est destinée aux États et aux municipalités pour maintenir l'activité des agents publics. Autre mesure, la mise en place d'un salaire minimum à 15 dollars de l'heure, 12 euros au niveau national. Personne ne travaillant 40 heures par semaine ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté, dit Joe Biden dans ce discours d'unité tourné vers l'avenir. Le président élu promet des millions d'emplois dans l'industrie. Il n'a pas dit un mot ni sur les émeutes du Capitole, ni sur la mise en accusation de Donald Trump.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En France, les personnes âgées de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner devraient pouvoir s'inscrire sur le site santé.fr d'ici 8h. À cause d'un problème informatique, les inscriptions en ligne n'ont pas pu démarrer hier comme initialement prévu.
À propos de la vaccination, l'Organisation mondiale de la santé demande à l'Europe de faire preove de plus de solidarité vaccinale. Écoutez ce qu'a dit hier le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge. 95% des 23 500 000 doses de vaccins administrées dans le monde entier concernent 10 pays. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre qu'un pays ou une communauté soit laissée pour compte. 10 pays, 95% des vaccinations. Hans Kluge, qui juge nécessaire que tous les pays capables de soutenir l'accès et le déploiement équitable des vaccins le fasse.
En France, c'est donc officiel dès demain et pour au moins 2 semaines, il faudra rester à la maison à partir de 18h. Sortir du travail, récupérer les enfants, faire les courses, il va falloir réorganiser tout cela et la grande distribution, elle aussi, va devoir s'adapter.
Alors direction Marseille, où la mesure est en vigueur depuis dimanche dernier. Ce couvre-feu anticipé a pas mal changé les habitudes des clients et des employés de supermarchés, Stéphane Frangy.
3 caddies pleins à ras-bord, Sabrina a pris un jour de congé pour faire ses courses en début d'après-midi, en pleine semaine, pour éviter le rush de fin de journée.
À 17h30, 18h dans la fermeture, il y a trop de monde, monsieur. Du monde de fou, hein, franchement. À la caisse, c'est la misère pour passer. Et aujourd'hui, j'ai pris une journée pour faire mes courses à mes enfants, tranquille. J'ai pas le choix. Des courses pour 2 semaines, là. Comme ça, je retourne plus à Carrefour, ni au Champ, ni rien du tout. Hein.
Car oui, avec cette fermeture anticipée, les 2 dernières heures d'ouverture sont devenues infernales, selon Marina, qui est gestionnaire de rayons dans cette grande surface.
En général, à 18h, il y a encore du monde. On finit jamais à l'heure. C'est beaucoup plus de gens. La queue, elle peut traverser tout le magasin. C'est ça, ils arrivent 16h, sortis d'école, donc ils viennent directement. Ils s'entassent tous ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix.
Ce qui pose également des questions de réorganisation de temps de travail, selon Johan Nezri, responsable syndical CGT Carrefour.
On avait déjà eu des soucis la première fois quand on est passé à 20h, notamment pour les caissières, pour réorganiser le temps de travail. Là, à 18h, c'est encore plus compliqué. Donc ça perturbe les services et surtout le fait qu'on ne sache pas la date butoir.
Et ce syndicaliste qui déplore également de lourdes conséquences sur l'emploi des intérimaires. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Dans l'actualité, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, mis en cause pour faux témoignage.
La même chose pour plusieurs hauts magistrats, dont l'actuel procureur de Paris, Rémi Heitz. Ils sont accusés par un député de la France Insoumise d'avoir tenu des propos mensongers lorsqu'ils ont témoigné devant une commission à l'Assemblée nationale. Guillaume Bier.
L'accusation n'est pas neutre, elle est même critiquée par d'autres élus membres de la commission. C'est le député du Nord de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, qui a saisi la justice en septembre dernier. Lui qui a présidé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'indépendance de la justice estime que plusieurs témoins auditionnés auraient menti sur certains points. Le procureur de Paris, Rémi Heitz, à propos des instructions sur les gardes à vue de gilets jaunes. Le préfet de police, Didier Lallement, sur les organisateurs de manifestations sauvages de policiers en juin dernier. Également dans le viseur du député insoumis, l'ancienne chef du parquet national financier ou encore la procureure générale de Paris. Ces accusations de faux témoignages ont été transmises au tribunal de Nanterre où une procédure est ouverte pour vérifier si des propos mensongers ont pu être tenus sous serment. Tous les responsables cités ont été invités à s'expliquer par écrit auprès du parquet.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Et on l'apprend à l'instant, c'est une information Europe 1. Le motard amateur Pierre Cherpin, victime d'un grave accident sur le Dakar, est décédé hier soir à son arrivée à 23h à l'aéroport du Bourget où il était rapatrié dans un vol sanitaire. Il a succombé à ses blessures.
Vous entendiez son appel hier matin sur Europe 1. Stéphane Ravaclet, ce boulanger de Besançon en grève de la faim pendant 11 jours pour s'opposer à l'expulsion de Laïe, son apprenti guinéen.
Appel entendu puisque le boulanger a été reçu à la préfecture de Besançon hier. Son apprenti a eu la confirmation qu'il serait régularisé et qu'il pourrait rester en France. Écoutez la satisfaction de Stéphane Ravaclet.
C'est une victoire totale pour moi. Je vais enfin pouvoir manger. Et pour là, il est sauvé. Il va pouvoir passer son CAP. Puis voilà. Et ça ne fait que commencer.
Et quelle a été la réaction de Lai, votre apprenti ?
Il est très très heureux. Il est enfin soulagé de pouvoir vivre pleinement sa vie comme il le désire.
Témoignage recueilli par Yasmina Katou. Et puis on vous parlait hier dans le journal de 7h30 de ce dessin original d'Hergé, la couverture de l'album de Tintin, le Lotus Bleu. Eh bien, il a battu le record mondial d'enchères pour la bande dessinée avec un prix record de 3,2 millions d'euros. Alors c'est une somme astronomique, mais qui paraîtrait presque dérisoire à côté de celle-ci, 5,2 millions de dollars. C'est ce qu'a déboursé un comédien américain pour acheter une carte collector de baseball.
Oui, mais attendez, c'était la carte de Mickey Mantle. Des New York Yankees.
Datée de 1952, je crois.
Oui, c'est celle-là. Ouah, 5 200 000 $ pour une carte de baseball. Pourquoi pas? Ce sont des
quand
enchères.
On est passionné.
Merci Sophie et Jeanne, quand on est passionné, effectivement. 7h37 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce matin, nous revenons longuement sur les annonces de Jean Castex. Bien sûr, la réponse aux évolutions de l'épidémie, l'arrivée des variants qui inquiètent évidemment, les perspectives aussi pour la santé, pour l'économie, pour votre morale même, si j'ose dire. Réaction de l'opposition ce matin à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le président des Républicains, Christian Jacob. Mais tout de suite... Tout autre chose, un peu de musique ce matin à l'heure où les salles de concert sont vides. Vous avez reconnu Pascal Obispo qui se lance, si j'ose dire, dans la vente directe. Il compte se passer de maison de disques et propose tout son travail passé et actuel sur une application payante. Coût marketing ou véritable innovation, il va nous expliquer sa démarche. Le tête-à-tête Europe Matin avec Pascal Obispo. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Dans un monde où les salles de concert sont fermées, où les géants du net sont rois, alors que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter de la musique sur Deezer, Spotify, Apple ou Amazon, Pascal Obispo lance son application payante. 6 € par mois. Ça s'appelle Obispo All Access. Sa musique d'hier et d'aujourd'hui. C'est mon invité ce matin, l'auteur, compositeur, interprète Pascal Obispo.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Pascal Obispo.
Bonjour.
C'est aussi ça, le monde qui change, cette application. C'est de la vente directe, en fait. L'idée, c'était quoi, Pascal Obispo? De se passer des intermédiaires?
L'idée, c'est de se passer des intermédiaires, d'aller directement avec donc les personnes qui vous aiment et qui vous suivent. L'idée, c'est de rentrer dans mon laboratoire. C'est un petit peu comme si vous faisiez une playlist sur une plateforme de streaming, par exemple. Mais c'est un petit peu comme si vous appuyiez sur un bouton de la playlist et que vous alliez à l'intérieur et en profondeur et que vous pourriez découvrir éventuellement tout ce qui se passe, comment on le fait, quels sont les acteurs, quels sont les photographes, les peintres, les réalisateurs, vivre des moments de musique, vivre des interviews, vivre tout ça. Et c'est une, grâce à la technologie et grâce à cette application, je peux le réaliser.
Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les important à vivre et de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour.
6 € par mois, je vous fais la promo Pascal Obispo, c'est un abonnement et on a tout Pascal Obispo dans la poche, c'est l'idée. Mais aujourd'hui, quand on voit les Deezer, les Spotify qui proposent plus de choix, évidemment, on se demande qui est-ce qui va payer, des ultra fans?
Le problème, c'est qu'en fait, il faut considérer d'abord que la musique a un coût. On peut pas considérer que la musique soit gratuite aujourd'hui. Là, juste pour le prix, on va dire, d'une place de concert, on a accès à beaucoup de choses, donc beaucoup d'albums, entre 500 et 1000 contenus dans l'application. Donc qui vient voir, les personnes qui m'aiment. Après, c'est sûr, faut être un peu aficionados, mais on va pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes qui sont curieux et qui aiment rentrer dans les laboratoires des artistes.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites, Pascal Obispo. Aujourd'hui, on a accès à tout le temps, souvent gratuitement même. Ce que vous rappelez, c'est que produire de la musique, du spectacle, ça a un prix, ça a un coût.
Mais il faut savoir que cette opération, en fait, que je suis en train de faire, cette application que j'ai conçue, elle a été faite grâce à tous les intervenants. Les maquilleurs, les monteurs, les caméramans, les réalisateurs, les musiciens, chaque musicien et toutes les personnes. Il y a au moins, je sais pas, je vais pas vous dire, ça doit être autour d'une cinquantaine de personnes, mais ce ne sont pas des bénévoles. Du chauffeur au porteur de caisse, l'assistant d'assistant éclairagiste, le caméraman, qui font les lumières, ceux qui font le son. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui souffrent en ce moment? C'est une erreur et c'est une très 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 mauvaise chose de considérer que la musique ou toutes les formes d'art sont des choses gratuites. Non, c'est du travail derrière, c'est de la sueur, c'est du temps, c'est de l'énergie. Évidemment, c'est comme ça.
D'autres artistes ont déjà essayé de se couper des maisons de disques. Je pense à Prince en particulier au tout début d'Internet. Vous dites autre chose ce matin, Pascal Obispo. C'est pas que de la diffusion. Vous parlez de laboratoire, de votre atelier, de votre espace. Vous voulez montrer le travail de création, la fabrique de votre musique presque.
Bah, je trouve que la diffusion, c'est quand même assez limité. Appuyer sur un bouton pour avoir une chanson, on peut le faire, mais il y a des personnes, il y a un public qui adore aller au fond des choses. C'est sûr que si Prince avait été là aujourd'hui, une application comme ça, d'abord je me serais abonné tout de suite parce que j'aurais aimé être à Minneapolis dans son studio. Mais c'est sûr que aujourd'hui Prince, il aurait une application de ce genre-là et pas seulement lui, d'autres artistes qui sont des chercheurs en fait. Je suis tombé pour elle.
Le week-end dernier, Pascal Obispo, vous avez révélé avoir été très atteint par le coronavirus. Vous avez été très malade. Vous vous êtes fait peur, je crois.
Bah, je me suis fait peur. C'est la Covid qui m'a fait peur. Mais j'ai passé vraiment 3 semaines très difficiles et plus celle derrière, ou qui, on va dire, la réhabilitation au monde normal, c'est-à-dire marcher, souffler, monter un escalier, des choses comme ça qui étaient impossibles pendant toute la maladie. Moi, a priori, j'étais pas suffisamment fragile pour y passer. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Donc voilà, vivement le vaccin.
Les scènes, les tournées, ça ne vous manque pas trop, Pascal Obispo?
Moi, ce qui me manque le plus, c'est d'entendre au téléphone mes copains sourire parce qu'ils sont en tournée, ouais. Heureux parce qu'ils ont du public devant eux.
Alors, il n'y aura pas que de la musique ou simplement de la musique sur votre application. Vous voulez proposer aussi des ambiances pour méditer, de la bande dessinée, des documentaires. On dirait les pages, vous savez, les pages lifestyle ou tendance dans un magazine.
C'est comme un labo, on rentre dans un labo, c'est un petit peu de ça, il y a beaucoup de choses. Il y aurait plein de choses tendances, des gens inspirants, et puis voilà, de la musique, des images, un peu de tout.
Vous avez utilisé le mot chercheur, c'est quoi un chercheur dans votre domaine?
C'est pas de se cantonner à sortir un album tous les 3 ans. C'est justement être en studio et travailler, chercher dans des styles différents, essayer de trouver des correspondances en mélangeant des choses différentes et puis tout d'un coup les proposer aussi pour faire vibrer ceux qui sont là à attendre la jolie formule, la bonne formule. Nous sommes des chercheurs pour trouver du plaisir et pour en donner. Donc c'est ma passion, c'est aussi mon métier. Et aujourd'hui, j'ai fait cette application pour aller encore plus loin.
Et ça s'appelle Obispo All Access, une application 6€ par mois. Tout Pascal Obispo d'hier et d'aujourd'hui dans la poche. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci, au revoir.
Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan.
Pascal Obispo, invité du Tête à Tête Europe Matin, aujourd'hui sur l'application Obispo All Access. Je vous le rappelle, 7h48 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. L'édito politique, Nicolas Bétou, dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h50 sur Europe 1. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le cours de bourse de Carrefour a brutalement chuté hier. Conséquence des déclarations de Bruno Le Maire, qui s'est dit hostile à un rapprochement avec le groupe canadien Couche-Tard.
Pour essayer de comprendre l'attitude de Bruno Le Maire, il faut se plonger dans son dernier livre, « L'ange et la bête », dans lequel il dit ceci « L'économie était devenue la politique. Avec la crise, la politique doit se réapproprier l'économie. » Voilà, c'est clair. Le blocage de l'opération Carrefour-Couche-Tard est une décision purement politique, pas économique.
Bon, est-ce que c'est un problème ?
Ah oui, un vrai problème même. Appliquer une grille d'analyse politique à un sujet purement économique, c'est l'assurance de faire des dégâts et c'est toujours le risque de flirter avec le populisme. L'argument de Bruno Le Maire, c'est qu'il faut protéger la souveraineté alimentaire du pays qui serait menacée par cette opération avec un groupe étranger. Ça alors, un supermarché, ce n'est quand même pas une usine d'armement ou de médicaments, c'est au contraire une activité soumise à une concurrence interne implacable et donc neutre stratégiquement et en plus impossible à délocaliser. Au nom de quelle rationalité économique le propriétaire d'une chaîne d'hypermarché prendrait la décision politique de retirer tel ou tel produit de ses rayons ? Ça n'a pas de sens. L'argument de la souveraineté est une fiction. De même, traiter le Canada comme si c'était la Chine, alors que les business français et canadiens passent leur temps à faire des deals et du commerce, c'est presque insultant pour ce pays qui est un pays libre et ouvert. J'ajoute que l'offre de rapprochement avec Carrefour provient d'un groupe d'origine familiale, pas d'un horrible fonds de pension. Vous savez, cette bête noire des politiques français.
Et alors, quels dégâts est-ce qu'il faudrait craindre ?
Eh bien, ils sont importants. D'abord, sur le plan international, la France passe son temps à faire des courbettes aux investisseurs internationaux. Venez, venez investir dans notre beau pays. Emmanuel Macron organise lui-même des conférences comme Choose France, qui rassemble le gotha du capitalisme mondial. Bon, alors, ce sommet, cette année, vient d'être annulé pour cause de Covid, normal. Mais ses participants ont aussi reçu le message de Bercy. Vous n'êtes plus vraiment tous bienvenus en France. Autre dégât sur le plan intérieur, cette fois, on ne peut pas se plaindre que les Français soient hostiles à la mondialisation et envoyer un signal danger chaque fois qu'un groupe étranger amical est candidat en France. C'est vraiment de la part du ministre des Finances très contre-productif.
Est-ce que les positions peuvent évoluer ?
Bon, ben, je suppose que les actionnaires concernés s'y emploient, mais cette affaire est d'autant plus incroyable que l'État n'est pas actionnaire de Carrefour. Économiquement, il n'a donc pas son mot à dire. Sauf, bien sûr, si on rêve d'un pays totalement administré.
Ce qui est votre cas, bien sûr.
Absolument. Alors, il reste peut-être une solution, que Bruno Le Maire relise son propre livre. Il tombera peut-être sur cette phrase, justement, sur le rôle de l'État. « La protection, dit-il, est la forme la moins claire des interventions de l'État. Rien ne nuit davantage à la puissance publique que sa dispersion. » On ne saurait mieux dire.
Que Bruno Le Maire lui-même. Voilà. Donc, Nicolas Bétou, l'édito politique. Merci beaucoup, Nicolas, votre édito tous les matins, juste avant 8h. 7h54 tous les jours. Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Christian Jacob, président du parti Les Républicains. Et Éric Ciotti souhaitait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Cabrol, bravo Monsieur Bétou, je vois que vous avez de saines lectures, vous avez annoté au post-it tout le livre de Bruno Le Maire et notamment cette citation qui est dans la page 124. Écoutez, bravo. Concernant, nous avons les mêmes livres de chevet,
bravo.
Mais j'en conclus que soit le gouvernement ne fait rien, soit Bruno Le Maire en fait trop, voilà. Alors écoutez, concernant Christian Jacob qui a relancé notre mouvement Les Républicains, qui veut relancer le mouvement des jeunes également chez Les Républicains. Et c'est une excellente initiative, car oui, Monsieur Béliard, il y a des jeunes républicains. Il y a des jeunes pour qui Éric Ciotti, Laurent Wauquiez ou Nadine Morano représentent un espoir, un modèle. Alors, permettez-moi, par le biais de votre antenne, de m'adresser aux jeunes qui nous écoutent. Toi, jeune qui es concomitant, tu as envie de remplacer ta casquette à l'envers par une jolie cravate bleu roi, voire même bleu marine ? Tu rêves de porter un pull noué sur les épaules couleur framboise écrasée ? Tu es chauve à 24 ans ? Tu kiffes les soirées où on parle d'immobilier en draguant des filles à serre-tête et finir ces soirées en chantant les lacs du Connemara avec des étudiants en médecine ? Eh bien, tu as le profil. N'attends plus. Je sais que vous êtes un de ceux-là, Monsieur Béliard. Mets ta chemise dans ton pantalon et rejoins les jeunes républicains. Yo !
Nicolas Canteloup qui témoigne maintenant le matin juste avant 8h de ses fins de soirée. Nicolas Canteloup qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presque. Et Christian Jacob, tout à l'heure 8h15 au micro de Sonia Mabrouk, le président des Républicains, 7h56. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo, pardonnez-moi. Je vais boire un verre d'eau pendant que vous donnez la météo.
Allez-y. Écoutez, pas de température négative, j'en ai trouvé une quand même. Moins 2 à Charleville-Mézières, au pays de notre ami Arthur Rimbaud. Mais il fait 0 degré à Lille et Strasbourg, 2 en banlieue parisienne, 3 à Paris, 5 à Bourges en ce moment, Cognac, 5 degrés aussi, Marseille, Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 6, 7, 8 à Lyon, Toulouse et Nice, et 10 degrés à Biarritz. Voilà pour des températures froides, et puisque le froid revient pour 2-3 jours ensuite, la douceur se réinstallera. Nous en reparlerons. Il neige en ce moment à Nancy, Colmar, Épinal, Strasbourg depuis ce matin. Depuis même cette nuit, il neige dans cette partie de la France. Mais ça va se calmer puisque cet après-midi, vous aurez presque du soleil dans ces contrées. Et là, dans la journée, de la pluie sur la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, les Cévennes, de la pluie en pleine. en montagne, à partir de 300 mètres, il neigera. Et puis maintenant, les côtes de la Manche, les côtes atlantiques, le temps sera calme, il fera presque beau. À Paris, sec et froid, donc sec et froid et même lumineux dans l'après-midi, si vous avez quelque chose à faire en région parisienne, attendez cet après-midi. Voilà, le Languedoc-Roussillon-Provence, beaucoup de vent et un temps très agité également avec de la pluie sur la Côte d'Azur et la Corse. Voilà, tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
On va être probablement l'un des pays en Europe les plus efficaces et les plus simples pour la prise de rendez-vous de vaccination.
Après le faux départ d'hier, c'est parti depuis quelques secondes pour la prise de rendez-vous de la vaccination. Et cette question, peut-on choisir le vaccin qu'on nous administre entre Moderna et Pfizer? Réponse d'Anne Le Gall. Et puis, au chapitre économique, le gouvernement débloque une nouvelle arme pour aider les entreprises face à la crise. Dans ce journal, la succession d'Angela Merkel qui se dessine. Et puis le mouvement punk qui est beaucoup plus sage dans ses paroles, mais qui est loin d'être mort musicalement, il le fait savoir.
Christian Jacob, président du Parti des Républicains, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Les annonces de Jean Castex, la gestion jour après jour, les perspectives pour la suite, réaction de l'opposition ce matin, juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le secrétaire médical le plus occupé de France. Déjà en temps normal, le voilà en charge des rendez-vous pour la vaccination. Doctolib, plateforme qui, comme ses concurrents Maya et Keldoc, devait prendre les inscriptions des plus de 75 ans dès hier. Mais le ministère de la Santé a visiblement connu quelques retards avec son propre site.
Alors si vous avez galéré pendant des heures devant votre écran hier, cette fois, c'est la bonne. Tout est prêt ce matin. Et vous allez voir que le patron de Doctolib est même assez rassurant sur l'efficacité du système français de vaccination. Stanislas Nioxchateau le dit, c'était sur Europe 1.
On a 600 centres de vaccination qui utilisent Doctolib, à la fois le logiciel de gestion de centre et la prise de rendez-vous en ligne. Il y aura d'autres centres qui vont se créer probablement dans les jours à venir. Mobilisation assez exceptionnelle, hein, je l'ai dit. Chaque Français aura 5 à 7 centres proches de chez lui dans chaque département, avec possibilité de prendre un rendez-vous en quelques clics. Et donc on va être probablement l'un des pays en Europe les plus efficaces et les plus simples pour la prise de rendez-vous de vaccination.
L'optimisme du cofondateur de Doctolib, Stanislas Nioxchateau, qui était l'invité de Sébastien Krebs à 6h40 sur Europe 1. À l'instant, on a vérifié, je l'ai sous les yeux, le site santé.fr fonctionne. Et puis, il y a le numéro vert 0800 009 110, désormais accessible 7 jours sur 7, de 6h à 22h.
Alors, on va le redonner, hein, 0800 009 110. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Alors, on dit le vaccin, mais il y en a maintenant deux qui sont disponibles en France, celui de Pfizer et celui de Moderna. Est-ce qu'on peut choisir ?
La réponse est non. D'abord parce que la Haute Autorité de Santé les place exactement sur le même plan. Ce sont deux vaccins à base d'ARN messager. Ils ont la même efficacité de 94% sur les formes graves et ils sont aussi bien tolérés l'un que l'autre. Et puis, de toute façon, dans un centre de vaccination donné, il n'y aura, sauf exception, qu'un seul type de vaccin qui sera livré en fonction des circuits logistiques. Donc, le patient ne choisira pas et les deux injections se feront avec le produit de la même marque.
Et un petit point de calendrier, Anne, les autres vaccins qui sont développés, quand est-ce qu'ils arrivent chez nous ?
Alors le prochain vaccin attendu en France est celui d'AstraZeneca. L'agence européenne du médicament pourrait se prononcer sur son autorisation le 29 janvier, ce qui est une bonne nouvelle car ce vaccin-là a l'avantage de se conserver à température ambiante, tout comme celui de Janssen que l'on espère pour février.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
C'est donc lundi que ça commence pour les plus de 75 ans, mais aussi pour les patients sous traitement contre le cancer, ceux qui ont une insuffisance rénale ou qui ont subi une transplantation d'organes, ainsi que pour les personnes trisomiques. L'annonce du couvre-feu à 18h partout en France métropolitaine, ça a des conséquences très concrètes sur notre consommation. Nos courses alimentaires, qui, on en a parlé ici même, se font à 30% après 17h30.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je voulais avec vous qu'on regarde ce matin du côté des emplois et des entreprises. En plus du fonds de solidarité, le ministre Bruno Le Maire a précisé qu'il y aurait une prise en charge des frais fixes. Alors ça, c'est nouveau pour certaines entreprises pénalisées par la crise.
Oui, ça concerne les groupes surtout familiaux, chaînes de restaurants, chaînes hôtelières, salles de sport, qui ont droit au plafond du fonds de solidarité, 200 000 euros par mois, mais pour l'ensemble du groupe et non pas par établissement. Et c'est souvent très insuffisant pour faire face aux charges fixes qui les submergent. Certains se retrouvent aujourd'hui au bord du précipice. Désormais, donc, pour les groupes qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros par mois, 70% de ces frais fixes seront pris en charge par l'État, jusqu'à 3 millions d'euros. Il suffira à partir du mois prochain de cocher la case aide sur les charges fixes. Pour vous donner un exemple, Emmanuel Sauvage paye chaque mois plus d'un million d'euros de charges fixes. Il dirige le groupe Evoque, qui possède notamment 4 hôtels 5 étoiles à Paris.
On a les contrats, notamment donc, qui sont les loyers. Toute la maintenance des établissements ont quand même de gros contrats de maintenance. Rien que ça, vraiment, les petits groupes familiaux, notamment, ont été en très, très grande souffrance. Donc, c'est vrai que ça va donner un petit peu d'air. Et surtout, ça va peut-être permettre de sauvegarder quand même pas mal d'emplois.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a par ailleurs précisé que ce plafond de 3 millions d'euros pourrait être revu à la hausse si Bruxelles accepte. Pour le moment, le coût global est déjà estimé à 4 milliards d'euros.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. On retient aussi cette annonce qui concerne l'école. Un protocole visant à tester jusqu'à 1 million d'enfants et d'enseignants par mois va être mis en place. La crise sanitaire occupe le gouvernement à temps plein et pendant ce temps-là, dans l'opposition, on pense à la suite.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
À droite, les prétendants s'activent en vue de la présidentielle.
Ah oui, chez LR, le petit jeu du moment consiste à lister tous ceux qui pensent à 2022, vous êtes prêts? Bertrand, Retailleau, Barnier, Sarkozy, Pécresse, Wauquiez, Lisnard, Dati, Juvin, etc.
On ne donne pas les prénoms, sinon on y sera encore à
sinon on y sera encore. On vise l'équipe de rugby, s'amuse un cadre. À défaut d'évidence, le « pourquoi pas moi » est en vogue.
Alors pas d'évidence, mais Xavier Bertrand semble le mieux placé aujourd'hui.
En tout cas, il est déclaré depuis longtemps et il est très méthodique. Il travaille avec son réseau d'experts et d'élus. Et pour le numéro 2 de LR, Guillaume Pelletier, que Xavier Bertrand ait quitté le parti en 2017, eh bien, ça n'est pas rédhibitoire.
Xavier Bertrand n'a jamais tapé sur notre famille politique. Xavier Bertrand est président des Hauts-de-France, une région très populaire. On a besoin, avant d'un candidat, d'une équipe de France. Xavier fait partie de ceux qui peut la fédérer et la mener à la victoire.
Alors son enjeu, s'imposer comme candidat naturel d'ici juin pour éviter le système de départage, en clair une primaire à l'automne. Xavier Bertrand doit bientôt voir Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, avec l'espoir de faire reculer le tout sauf Bertrand qui existe encore à droite. Pour tuer le match, il doit, dit-il, passer du statut d'opposant à Emmanuel Macron à celui de remplaçant dans la tête des Français.
Aurélie, il y en a d'autres qui se préparent.
Ah oui, Bruno Retailleau s'organise, lui, face au tout sauf Retailleau de beaucoup d'élus. Le mois prochain, il va lancer son application numérique pour élargir son réseau militant en vue de la primaire, car selon lui, la probabilité qu'il y ait un candidat naturel, Xavier Bertrand ou un autre, est faible. Et depuis Noël, il y a un nouveau nom dans le paysage, Michel Barnier, l'ex-négociateur du Brexit, que certains verraient bien candidat. Alors Michel Barnier, lui, confie être dans une phase d'écoute et de consultation, trop tôt pour savoir quelles conclusions il va tirer de ces échanges avec ses camarades.
Bon, globalement, Aurélie, ce qu'on voit, c'est que les Républicains ne veulent pas se presser. Pourtant, l'enjeu, forcément, est assez énorme.
Ah oui, après deux présidentielles perdues, 2022 est presque une question de survie. Mais à en croire Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint, il y a de l'espoir.
Ceux qui, généralement, doivent remporter les élections présidentielles ne les remportent jamais et ceux qui ne doivent pas les remporter les remportent. Donc, pour 2022, nous avons de bonnes chances de l'emporter si nous suivons cet adage.
Une méthode couée résumée par ce cri du cœur d'une députée, ras-le-bol d'être dans l'opposition.
Dossier signé Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Je vous rappelle que le président des Républicains, Christian Jacob, sera l'invité de Sonia Mabrouk juste après ce journal.
En bref, cette dernière minute, le motard Pierre Cherpin a succombé à ses blessures hier soir à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Il était rapatrié d'urgence après un grave accident sur le rallye Dakar. C'est une information du service police-justice d'Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Qui sera chancelier après les 16 années d'Angela Merkel? A priori, un homme issu de l'Allemagne de l'Ouest. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal François Geffrier.
Ça fait bizarre de le dire, mais Angela Merkel va prendre sa retraite à la fin de l'année. Retraite de son poste de chancelière fédérale d'Allemagne et de la tête de son parti, la CDU, qui va tenter aujourd'hui et demain d'organiser sa succession lors d'un congrès. Hélène Kohl.
C'est la règle de la démocratie parlementaire allemande. Le chef du parti qui arrive en tête aux élections devient chancelier. Et à 8 mois du scrutin, la CDU a une avance de près de 20 points. Donc la personne qui va être élue président de la CDU lors de ce congrès s'installera automatiquement dans le costume de favori pour être le prochain chancelier. Et ce sera un homme de l'Ouest. C'est la seule chose dont on est sûr, car pour le reste, aucun des prétendants ne sort du lot, ou plutôt, aucun n'arrive à sortir de l'ombre de Merkel. Pour résumer, en lice, on a l'un de ses fidèles lieutenants qui incarne la continuité, il s'appelle Armin Laschet, mais il a complètement raté la gestion de la crise du coronavirus dans son land et il a perdu beaucoup de crédit. En face, il y a Friedrich Merz, qui au contraire parie sur la rupture avec les années Merkel. Il veut un leadership décomplexé et tape à l'œil. Enfin, le troisième candidat, Norbert Röttgen, propose la voie médiane, un « en même temps » qui n'enthousiasme personne. Le vote est prévu demain midi. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
De la musique pour terminer ce journal. Et après Pascal Obispo, il y a une vingtaine de minutes, un tout autre genre de musique. Les groupes Shame et Sleaford Mods sortent aujourd'hui leur nouvel album.
Des groupes punk. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de musique punk ce matin sur Europe 1? Parce que ce que nous dit Angèle Châtelier, c'est que cette musique est toujours aussi énervée, hein, au niveau des guitares, etc. Mais les paroles, visiblement, sont plutôt consensuelles.
Dans Station Wagon, le chanteur de Shame nous dit qu'il n'y a pas de mal à être plus doux au quotidien. Dans leur titre Mother, le groupe Idols remercie les mamans. Viagra Boys, qui viennent de sortir un deuxième album, évoque la masculinité toxique. Le punk est de retour, oui, mais avec des paroles plus bienveillantes que les grands groupes des années 70. Une vie plus saine, pour certains aussi, ce que constate Solveig Serre, chercheur au CNRS et auteur d'ouvrages sur le punk.
Ils sont plutôt proches de l'idéologie des hippies que les punks combattaient en 76. Être écolo, défendre les animaux, boire de l'eau claire, c'était pas vraiment du tout l'état d'esprit des punks d'origine qui, eux, revendiquaient la crasse, la rue, la drogue, la défonce. Ça interroge aussi beaucoup sur ce que la société fait aux marges sur 40 ans.
Mais le punk est toujours aussi politique. Les Sex Pistols critiquaient la royauté britannique. Dans God Save the Queen, Fontaines D.C. rend hommage à la poésie de la classe ouvrière d'Irlande et nous invite, comme un conseil, à ralentir dans leur dernier album sorti cette année, nommé depuis au prestigieux Grammy Awards.
Mathieu, continuez d'être toujours aussi punk, ça vous réussit.
Un peu de punk à la fin du journal de 8h d'Europe 1, pourquoi pas. Même si les paroles sont plus consensuelles que dans le temps, l'époque a changé, que voulez-vous. Le monde change, et on le raconte avec vous, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous êtes punk, Sonia?
Ça va être compliqué de l'être. Attendez.
Je voulais vous aider parce que les transitions sont délicates. Je vous suis.
On peut y arriver. Bonjour Mathieu. Bonjour
Sonia.
Tous. L'exécutif défend sa méthode progressive pour éviter un reconfinement, un équilibrisme sanitaire accepté par une majorité de Français. Et l'opposition peut-elle être constructive sans être pavlovienne? Tout un programme ce matin avec notre invité, le patron des Républicains, Christian Jacob.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Christian Jacob, le président des Républicains.
Bienvenue à vous et bonjour Christian Jacob.
Bonjour.
On va évidemment évoquer la stratégie sanitaire du gouvernement et les dernières mesures, mais tout d'abord, est-ce qu'il est possible ce matin, pour l'opposition que vous incarnez, d'être dans la critique constructive et pas forcément tomber dans la critique pavlovienne?
On a toujours été dans la critique constructive, toujours, à tout moment. On a toujours été force de proposition. Il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Il y en a d'autres qu'on conteste. Notamment, moi, je ne m'explique toujours pas ce fiasco total et ce ratage du démarrage de la vaccination. C'est invraisemblable. Comment on a pu, à ce point, ne pas anticiper le démarrage de la vaccination, être toujours le mouton noir de l'Europe? On nous avait expliqué qu'on allait anticipé. C'est vrai qu'après avoir raté sur les masques, raté sur les tests, raté sur les Lydréa, on pouvait imaginer qu'on allait réussir le démarrage de la vaccination. Eh bien non, c'est encore un loupé complet. En revanche, il y a effectivement des mesures dans lesquelles nous reconnaissons.
Mais par exemple, sur les vaccins, ce matin dans Le Parisien, la secrétaire d'État Olivia Grégoire se demande si les oppositions ne sont pas devenues antipatriotiques. Que lui répondez-vous ?
C'est des propos imbéciles. On pourrait se passer de cela.
Mais quand les présidents de région contournent l'État, par exemple, pour commander ou essayer de commander des vaccins, n'est-ce pas justement quelque part antipatriotique ?
Mais je vais vous prendre des exemples très concrets. La mesure, une bonne mesure, qui vient d'être décidée par le gouvernement sur le contrôle aux frontières. C'est bien, nous en félicitons. Simplement, cette mesure, souvenez-vous, il y a 9 mois que nous l'avions proposée. 9 mois que nous l'avons proposée. Le gouvernement, a commencé par le président de la République, s'était moqué de nous. D'ailleurs, très bien relayé par une grande majorité de la presse en disant « Mais le vaccin n'a pas de passeport », disait-on en ricanant. 9 mois pour le mettre en application. Je me félicite que la décision ait été prise. Les tests à grande échelle, là aussi, c'est une mesure que nous avons défendue. Enfin, le gouvernement s'y met. Et c'est bien Laurent Wauquiez, lorsqu'il l'a mis en place, qui a raillé la décision de Laurent Wauquiez de faire des tests à grande échelle. C'était Olivier Véran. Et aujourd'hui, on y passe, et c'est bien, je m'en félicite.
Vous aviez tout vu avant tout le monde.
On n'avait pas tout vu, mais on a le droit d'écouter l'opposition dans une démocratie.
Bien sûr.
On n'a pas le droit d'intervenir par le mépris en permanence, mépris du Parlement, mépris des maires, mépris des corps intermédiaires. Le président de la République en est même à mépriser son propre gouvernement. Écoutez, hier, faire les vœux de La République En Marche, avec la présence du président de la République, pendant que son propre gouvernement est en train de faire la conférence de presse.
Bon, est-ce que ce n'est pas des polémiques inutiles, cela ?
Il faut poser la question au président de la République. Ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question, quand même.
Vous pensez que c'est un sujet, justement, à polémique, que le président intervienne ici ?
Écoutez, je trouve que c'est un minima déplacé.
Bon.
En revanche, quand il y a 9 mois, on demandait le contrôle aux frontières, je pense que c'était frappé au coin du bon sens. C'était Éric Ciotti qui, au nom de notre groupe, faisait cette proposition. Elle ne méritait pas d'être raillée comme elle a été.
Et maintenant, Christian Jacob,
aujourd'hui, la mesure est prise, et c'est une bonne mesure, et on s'en félicite.
Et vous le soulignez, le couvre-feu à 18h généralisé, pour éviter ou repousser du moins un reconfinement éventuel. Est-ce que ça aussi, c'est du bon sens, pour reprendre votre expression ?
Je pense qu'il aurait fallu le territorialiser, parce qu'il y a des conséquences économiques lourdes, vous savez, je pense notamment au commerce. Vous avez beaucoup de commerce. Moi, je suis à Provins, dans une ville qui est très commerçante. Entre 18 et 20 heures, vous avez beaucoup de commerçants qui font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, la prendre sur l'ensemble du territoire, je pense qu'il aurait fallu, à mon avis, la territorialiser
très bien,
davantage.
Mais vous ne contestez pas son efficacité ni son impact sanitaire.
À partir du moment où elle nous évite, et j'ai entendu les arguments du Premier ministre hier, de toute façon, tout doit être fait pour éviter le confinement, la mise sous cloche, sous bulle totale du pays.
Donc vous approuvez, pardonnez-moi, ce chemin de crête qui cherche aujourd'hui à éviter un confinement lourd de conséquences sociales
tout à fait,
et psychologiques.
Simplement, ce que je dis, c'est qu'on aurait pu le territorialiser. De la même façon qu'il fallait, à mon avis, territorialiser sur les vaccins.
C'est-à-dire ?
Ce qui est fait aujourd'hui avec cette plateforme...
Mais il y a une montée en puissance quand même, au-dessus du million de vaccinés fin janvier, même si le rythme ne vous convient pas, il est dans une forte progression.
Oui, enfin, il est dans une forte progression. Je vous rappelle qu'on vaccine aujourd'hui 5 fois moins, on a de vaccinés 5 fois moins qu'au Danemark, 4 fois moins qu'en Italie.
Ce n'est pas un vaccinoton, c'est chacun son rythme et les publics prioritaires identifiés.
Mais pourquoi, au nom de quoi, la France serait systématiquement le dernier ? Pourquoi systématiquement la France rate à chaque fois les opérations ? Ça mérite quand même.
Surtout
moi,
quand
j'invite
même
quand même le
Jacob.
Gouvernement de temps en temps à regarder pourquoi ça ne marche pas en France et que ça marche dans les autres pays. Donc aujourd'hui, nous continuons à faire des propositions, et je pense que toujours dans l'idée de faire des propositions.
Mais attendez, regardez, dès lundi, ouverture de la vaccination aux personnes à risque, quel que soit l'âge, avec ordonnance du médecin traitant. On est en train d'élargir la taille des groupes éligibles.
Mais voilà, c'est très bien. Mais tout ça est très bien, simplement. Pourquoi s'y reprendre à 4 fois ? Je vous dis simplement...
Peut-être parce qu'ils vous ont écouté, parce que moi je me souviens ici même, vous, Christian Jacob, le 10 novembre, vous me disiez, je vous posais la question sur les vaccins, vous m'avez dit formidable, très bel espoir, mais attention, j'appelle à la prudence. Eh bien le gouvernement a écouté les oppositions. Prudence, progressivité.
Non, c'est pas... Attendez. Sur la vaccination, le retard qui est pris aujourd'hui, et je l'ai souligné à plusieurs reprises, le fait d'abord de ne pas avoir territorialisé, de ne pas s'être appuyé sur les collectivités territoriales, sur une plateforme nationale. On voit bien d'ailleurs les ratés de cette plateforme aujourd'hui pour réserver.
Oui,
on
y a
pourrait
des bugs,
très bien,
mais on espère que ça va avancer.
Mais je vais vous prendre des exemples concrets. On va bien se comprendre. Vous voyez, on a un centre, je vais d'ailleurs le visiter en sortant de votre émission, je retourne à Provins pour aller visiter notre centre de vaccination que nous avons mis en place. La plateforme pour réserver, pour prendre les rendez-vous. Plateforme nationale. Donc les gens vont essayer de réserver à 2 places, à 3 places, à 4 places, là où ils auront le rendez-vous le plus tôt. Et donc, vous allez bien évidemment avoir des trous dans la raquette. Si on avait raisonné tout simplement en s'appuyant sur les collectivités territoriales, on pouvait le faire par arrondissement, en travaillant avec le ministère de l'Intérieur, qui est beaucoup mieux équipé que le ministère de la Santé pour ce genre de choses. Pourquoi ne pas avoir, comme nous le proposons, mobilisé l'armée ? Les Allemands le font.
Très bien, mais attendez, en vous écoutant, Christian Jarre, moi j'ai l'impression en vous écoutant ce matin que tout le monde en France s'arrache les vaccins, que tout le monde réclame les vaccins, que tout le monde veut se faire vacciner. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Non, mais enfin, de plus en plus, et pour ça, il faut donner le signe. Moi, je l'avais dit clairement. Moi, je demandais à ce que les personnes publiques, d'ailleurs, j'avais fait la proposition de me faire vacciner, que l'ensemble des personnes, qu'on ne soit pas sur l'entre-deux.
Mais ce que je veux vous dire là, c'est que tous ceux qui vont trop vite risquent une rupture de stock également. Est-ce que finalement, avec le recul, on ne risque pas, et ce serait tant mieux pour notre pays, d'avoir le bon rythme ?
Non, enfin, le bon rythme, c'est que le maximum de gens soient vaccinés. Écoutez, ça me semble frapper au coin du bon sens.
Je donne un exemple, dans les EHPAD.
Pourquoi en Angleterre, vous avez 10 fois plus de gens qui sont vaccinés ? On peut railler les Anglais, mais enfin, la réalité, c'est quand même qu'il y a 10 fois. Et qu'aujourd'hui, me semble-t-il, et c'est aussi un point d'accord avec le gouvernement, que la meilleure protection, c'est le vaccin.
Je vous donne un exemple, Christian Jacob. Bien sûr,
mais arrêtons de tergiverser.
Bien sûr, dans les EHPAD, les personnels ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Est-ce qu'on le sait ? Ils sont à peu près 20% à l'avoir demandé. Idem dans les hôpitaux. Pas de précipitation chez les aides-soignants.
Mais c'est pas. Mais simplement, à un moment, quand on prend une décision, on ne doit pas tergiverser. Et pour moi, je suis pro-vaccination et je demande qu'il y ait une mobilisation générale. Il faut aujourd'hui être sérieux. C'est se protéger, mais c'est aussi protéger ses enfants, sa famille, ses parents. Cessons d'être ridicules sur le vaccin.
Et deux questions d'actualité, parce qu'il y a évidemment la situation sanitaire et d'autres sujets. Je voudrais vous faire réagir sur le préfet de police de Paris, Didier Lallement, le procureur Rémi Hayes et des hauts magistrats Christian Jacob qui sont visés par une enquête pour faux témoignages soupçonnés par des membres de la France insoumise d'avoir menti devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils doivent rendre compte devant la justice. Qu'en pensez-vous sur le principe déjà ?
Sur le principe, quand on est auditionné dans une commission d'enquête à l'Assemblée, on est auditionné sous serment. Et à partir de là, il est évident que des gens qui mentent ou qui ne disent pas la vérité sous serment sont condamnables. Et c'est normal qu'ils le soient. Je ne connais pas là, les éléments précis qui leur sont reprochés, mais si c'est le cas, en revanche, je dis faisons attention, et notamment à l'égard...
Ma question est simple, est-ce qu'il y a une opération politique derrière cela, ou est-ce que vous comprenez ce principe ?
À l'égard des ministres, notamment en exercice, moi je l'ai dit, j'ai été choqué, notamment sur les perquisitions qu'on a pu avoir chez Olivier Véran, ou chez Édouard Philippe, mais il n'était plus en fonction, mais ça me choque, parce qu'il y a un moment, il faut laisser la capacité à l'exécutif d'agir. Et donc je pense que si on veut avoir des ministres qui n'osent plus rien faire, déjà on leur reproche souvent de ne pas en faire suffisamment.
Nous ne soyons pas
de leur mettre cette pression. Il faut être sérieux. Aujourd'hui, on a besoin de politiques qui décident. Et c'est d'ailleurs le reproche que je fais à ce gouvernement, d'être bien souvent dans l'incapacité de décider, de trancher et de dire les choses clairement.
Une décision du ministre de l'Intérieur, là encore autre sujet, le livreur de repas algérien de 19 ans qui avait déclaré ne pas vouloir livrer les restaurateurs parce qu'ils étaient juifs, a été condamné à 4 mois de prison et le ministre de l'Intérieur a pris la décision de le faire expulser. Vous approuvez cela ?
Oui, bien sûr. Et c'est quand vous savez que les actes antisémites, c'est 50%, c'est la moitié des actes racistes en France. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Tous les étrangers qui, sur le sol français, commettent des délits, que ce soit des délits racistes, antisémites, ou que ce soit l'apologie du terrorisme, ou que ce soit tout autre délit, n'ont plus rien à faire sur le sol national. Alors là, je vois
bien... Ils devaient être expulsés, selon vous.
Ah mais oui, mais attendez, quand on est étranger en France, qu'on commet des délits, on n'a plus rien à faire en France. C'est aussi clair que ça. Simplement, ce que je note aussi, c'est qu'avec ce gouvernement et le gouvernement Macron, je crois qu'on est effectivement au taux de raccompagnement aux frontières sur les décisions d'expulsion le plus faible qui n'a jamais été. 9 sur 10 qui ont fait l'objet d'une décision de justice d'être expulsés ne sont pas expulsés. Seulement 12% sont expulsés. Alors
et
je veux bien
cas,
que le ministre de l'Intérieur mette
qu'il n'y a aucune
en
tolérance
en exergue.
Pour des propos
individu.
Et des agissements antisémites, bien sûr.
Je veux bien que le ministre de l'Intérieur mette en exergue une expulsion, mais ne soyons pas ridicules, regardons la réalité des choses. Ces étrangers qui commettent des délits en France n'ont rien à faire sur le sol français, c'est aussi clair que ça.
Merci Christian Jacob. Vous m'avez dit pas de critique pavlovienne, mais constructive, hein, c'est
oui,
bien
oui,
ça
oui,
ce matin.
Oui, mais tout à fait, mais écoutez, je vous ai dit que certain nombre de mesures que l'on soutenait et dans lesquelles on se retrouvait, je regrette simplement qu'elles soient prises avec autant de retard et d'avoir autant méprisé l'opposition lorsqu'on faisait ces propositions.
Bon, elle s'exprime en tous les cas, notamment ce matin. Merci Christian Jacob d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk. Merci Christian Jacob.
Merci
8h28, vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à suivre l'info avec Hélène Zélani, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Jean Castex, face aux difficultés des étudiants, il reçoit aujourd'hui leurs représentants ainsi que les présidents d'université. Hier, le Premier ministre a annoncé le retour aux cours en présentiel pour les premières années à partir du 25 janvier. Des travaux dirigés en demi-groupe. Pas de changement pour les autres niveaux, toujours les cours à 100% en distance. Sentiment mitigé après ces annonces pour Rosalie. Là, elle est en première année à la fac de Nanterre.
Je suis en même temps contente parce que c'est cool de pouvoir avoir quelques cours en présentiel. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, du coup, je connais vraiment, vraiment personne à la fac. Enfin, j'ai vu des gens au tout début quand on avait quelques TD en présentiel. Mais là, en plus, on a changé de groupe de TD au deuxième semestre. Donc ça va être la première fois que je les vois. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. On va pas se plaindre quand on sait qu'il y en a d'autres qui ont toujours rien en présentiel pour les deuxième, troisième années, les masters et tout. Mais pour moi, c'est pas assez. Ça ferait seulement 6 heures toutes les deux semaines de TD. Donc c'est pas énorme. C'est un peu décevant, je trouve. Mais on s'attendait pas non plus à beaucoup mieux, donc...
Un propos recueilli par Zoé Pallier. Toujours concernant l'éducation, pas de fermeture des écoles, mais interdiction du sport en intérieur. Idem pour les activités extrascolaires. Des mesures aussi pour éviter le brassage des élèves à la cantine. Sinon, à partir de demain, toute la France passe sous couvre-feu à 18h. Les contrôles aux frontières seront renforcés et les personnes les plus fragiles pourront être vaccinées dès lundi sans condition d'âge. Geste aussi pour les entreprises. Elles auront un an de plus pour commencer à rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État. La sécurité sociale recrute. Elle va embaucher 10 000 salariés cette année et lance une campagne pour attirer les candidats. Olivier Samin.
Des conseillers pour l'accueil du public, des gestionnaires qui traitent les dossiers, des managers, des informaticiens et plusieurs dizaines d'autres métiers. Au total, 10 000 nouvelles recrues attendues cette année dans les caisses primaires d'assurance maladie, les CAF, l'assurance retraite ou les URSSAF. Ce n'est pas le nombre qui est nouveau. Tous les ans, la Sécurité sociale embauche à peu près autant de monde pour remplacer les départs à la retraite. Ce qui est nouveau, c'est le fait que cette fois-ci, elle met en avant les visages de ses agents et le rôle qu'ils ont tenu depuis le début de la crise auprès des assurés dans la difficulté. Pour Rénal Lemay, directeur général de l'UCANSS, l'organisme qui supervise le recrutement des caisses de sécurité sociale, si la crise peut être l'occasion de faire découvrir aux Français l'implication de ces agents dans ces temps troublés, il n'y a pas à hésiter.
On a beaucoup parlé à raison de l'hôpital, à raison des pompiers, à raison de la police, à raison d'autres secteurs d'activité. Mais je crois qu'il faut aussi souligner à quel point la sécurité sociale a eu et a toujours un rôle essentiel dans cette crise sanitaire.
Rôle par exemple des agents des CAF auprès des familles, des équipes de l'assurance maladie dans le suivi des malades du Covid et des cas contacts, ou encore des conseillers de l'URSSAF au chevet des entreprises.
Olivier Samin. Inquiétude pour la santé de Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture âgé de 73 ans, est atteint du Covid. Il a été admis en urgence dans un hôpital parisien. Il a contracté la maladie il y a 10 jours lors d'un rassemblement familial. Le handball, victoire de l'équipe de France contre les Norvégiens hier soir, 28-24 en ouverture du championnat du monde en Égypte. Résultat que vous ne pourrez pas lire dans le journal L'Équipe. Le quotidien sportif reste absent des kiosques aujourd'hui. 7e jour d'une grève historique contre la suppression d'une cinquantaine de postes.
Hélène Zélani, merci beaucoup. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et avec la neige qui s'est manifestée ce matin, comme ces jours derniers d'ailleurs, ce sont les régions de l'Est qui sont touchées. Hein, Nancy, Colmar, Épinal, Strasbourg, un petit peu la Champagne. Et dans toutes ces régions, Franche-Comté, région Rhône-Alpes, eh bien nous aurons une journée souvent froide et ponctuée de chutes neigeuses. Ailleurs, ce sera pas mal du tout, près des côtes de la Manche, près des côtes atlantiques. Non, il y aura quand même de belles éclaircies. Sur Paris, ce sera pas mal non plus cet après-midi, sur le Poitou-Charentes, la Vallée de la Loire et le Languedoc-Roussillon, là nous avons du vent avec un petit peu de vent tout seul et puis très agité sur la Côte d'Azur et la Corse. Allez, je termine en disant que la température maximale est en baisse très nette entre 3 et 8 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed dans quelques toutes petites secondes, notre planète Fanny Agostini et Nicolas Canteloup, la revue de presse avant 9h, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et avec vous ce matin, nous prenons soin de notre sommeil, car de plus en plus de Français ont du mal à trouver le sommeil, à bien dormir. Comment faire pour mieux dormir en cette période, Jimmy ?
Alors on va vous proposer quelques petits trucs, trois choses simples. La première, c'est la lumière, évidemment celle des écrans qui va bloquer le soir une hormone qu'on appelle la mélatonine qui va être responsable de l'endormissement. Mais c'est pas tout, la lumière des ampoules qu'on a à la maison, celle qui éclaire nos appartements, joue aussi un rôle dans la perturbation de notre sommeil. Les études montrent que les habitants de zones reculées où il n'y a pas d'électricité, comme au Brésil dans certaines régions par exemple, eh bien ils s'endorment plus tôt et dorment plus longtemps que les habitants des villes urbanisées où il y aurait beaucoup plus de lumière. Ça veut donc dire que la lumière artificielle perturbe notre sommeil. La première chose qu'on peut tous faire le soir, c'est d'essayer de tamiser la lumière, peut-être à partir du repas, commencer à baisser la luminosité. Vous allez voir, vous allez déjà mieux vous endormir.
Et du coup, on mange peut-être un petit peu plus léger pour mieux dormir ?
Alors, c'est pas forcément ce qu'on mange, mais plutôt l'heure à laquelle vous allez le manger. Évidemment, il faut essayer de manger plutôt léger, c'est mieux pour votre santé, mais plus vous mangez tôt, mieux vous allez dormir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un repas pris tardivement va augmenter votre taux de sucre, la glycémie, en première partie de nuit. Et ce taux de sucre, lorsqu'il va être élevé, va laisser penser à votre organisme que vous êtes réveillé. Vous allez donc moins bien dormir et avoir un sommeil de moins bonne qualité. Donc manger tôt, peut-être comme les poules à 18-19 heures, c'est pas mal.
Ou comme les Allemands.
Parce que
les poules, elles se couchent tôt. Les Allemands, ils dînent tôt, pour le coup. Qui dordine, tout ça, vous connaissez. Jimmy, vous faites exprès, j'ai une petite question, on est vendredi, je me permets. Vous faites exprès à chaque fois d'avoir une petite partie nourriture, une petite partie alimentation pour moi dans la chronique, où c'était prévu, même si c'était pas moi.
Non, c'est la base de la santé, une bonne alimentation.
Je suis bien d'accord.
J'en suis persuadé.
Écoutez ce que dit Thierry Marx, le grand chef multi-étoilé à ce sujet, justement.
Le seul moyen de donner une chance à sa santé, finalement, c'est de cuisiner. La cuisine, il ne faut pas l'oublier, c'est plaisir, bien-être, santé. Qu'on arrête de parler du temps. On s'aperçoit qu'on a passé 3 ou 4 heures sur son smartphone. Alors, on peut prendre 45 minutes pour faire la cuisine et anticiper des plats qui pourraient être une entrée réussie, un plat réussi, ou un plat réussi et un dessert réussi.
Quand j'ai entendu Thierry Marx, j'ai pensé à vous, Jimmy, parce qu'on a souri sur le pavé de saumon, sur les huiles, les noix cette semaine. Oui, il faut bien cuisiner, bien manger pour être en bonne santé. Alors, d'un mot, Jimmy, si malgré les deux conseils que vous avez donnés, on a toujours du mal à s'endormir, est-ce que vous avez des petits exercices de relaxation ?
Un exercice respiratoire tout simple en quelques secondes s'appelle l'exercice 4-7-8. C'est un médecin américain à Harvard qui a validé cette technique. Vous en avez plein d'autres. Le soir, au moment de vous endormir, vous prenez une inspiration pendant 4 secondes. Vous bloquez cette respiration pendant 7 secondes et vous expirez pendant 8 secondes, 4-7-8. Vous faites ça une minute, vous allez vous endormir très rapidement. Vous allez voir, ça marche à tous les coups.
Merci beaucoup, j'essaye ce soir. Jimmy Mohamed, notre santé est de 15h à 16h. Évidemment, l'émission Santé d'Europe 1 sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. 8h40, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et j'aimerais juste témoigner parce que le docteur Jimmy Mohamed, il m'a juste sauvé la vie, question de sommeil. C'est lui qui a réussi à endormir mon bébé il y a 2 semaines et grâce à lui maintenant je peux dormir la nuit. Donc
Jimmy, voilà. C'est incroyable.
Prenez ses conseils au pied de la lettre.
On dirait les pubs comme j'aime. Grâce à Jimmy Mohamed, j'ai dormi 20 minutes de plus. Là, pardonnez-moi. Bon, restez avec nous Jimmy parce que vous, accrochez-vous sur ce que va raconter Fanny Agostini. Fanny, vous nous parlez ce matin de bactéries qui auraient le pouvoir de faire pleuvoir les nuages.
Oui, 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 oui. Et si les bactéries, je vous le dis ce matin, étaient à l'origine tout simplement de la pluie. Au sein même des nuages, des scientifiques autrichiens ont découvert en fait la présence de bactéries en plaçant des plaques métalliques sur le toit d'un observatoire situé à 3100 mètres d'altitude. Et c'est de là que dans les gouttelettes d'eau, ils ont récolté des micro-organismes, des bactéries qui représenteraient 20% de la masse totale des particules que l'on trouve dans les nuages. Elles appartiendraient à une vingtaine d'espèces différentes flottant entre 6 et 7 km au-dessus de nos têtes. Elles sont en fait arrachées de la surface terrestre par les vents et elles se retrouvent transportées dans la colonne d'air où elles voyagent au gré des courants tout autour de la planète.
Et comment ces bactéries s'y prennent pour déclencher la pluie ?
Alors déjà parce qu'elles en ont besoin pour survivre. Dans la troposphère, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère dans laquelle se forment les nuages, les conditions de vie sont hostiles pour les bactéries qui ne supportent pas longtemps les basses températures. Une fois envolées là-haut, elles ne sont pas en capacité d'y rester indéfiniment et comme elles ne peuvent pas retomber au sol par la force de la gravité comme elles sont trop légères, il leur faut trouver un moyen. C'est de là qu'elles organisent un ingénieux stratagème. Elles vont forcer le nuage dans lequel elles se trouvent à fabriquer de la pluie. C'est pourquoi pourquoi on les appelle les bactéries glaçogènes, parce qu'elles ont la faculté de favoriser la formation de cristaux et de gouttelettes. Dès qu'elles s'en ressentent le besoin, en fait, elles vont ainsi retomber sur Terre, accrochées aux gouttes. On peut en cela dire qu'elles jouent un rôle vraiment très actif dans la formation des nuages et dans les précipitations.
On pourrait donc imaginer les utiliser, ces bactéries, pour faire pleuvoir sur commande dans des zones qui sont exposées à la sécheresse, évidemment.
Alors, c'est déjà le cas, enfin, pas vraiment pour la pluie, mais pour la neige. La bactérie la plus connue est l'une de celles que l'on retrouve initialement dans les arbres fruitiers. Cette bactérie peut faciliter la cristallisation. C'est elle que l'on utilise d'ailleurs parfois dans les stations de ski, oui, pour aider à la fabrication de la neige artificielle. On utilise aussi cette bactérie glaçogène pour la conservation des aliments ou encore des vaccins. Pour fabriquer de la pluie, pour l'instant, aucune technique n'est encore au point. Les essais ne datent pourtant pas d'hier. Depuis 1946, il y a eu des expérimentations de pluies artificielles grâce notamment à l'ensemencement des nuages en relâchant des particules fines et des aérosols via des avions, et des procédés qui sont encore controversés aujourd'hui, notamment dans les zones arides, puisque la pluie, manque de bol, malheureusement, a tendance à s'évaporer bien avant d'arriver au sol.
Merci Fanny Agostini, notre planète. Et puis je vous ai taquiné tous les deux, Fanny et Jimmy. Jimmy, vous êtes toujours avec nous?
Avec plaisir, bien sûr.
Évidemment, lundi matin, les techniques pour faire dormir bébé, ça vous va?
Sans problème.
Et là, c'est notre santé après le journal de 8h30. Je me suis dit après que ça pouvait quand même intéresser 2-3 personnes qui nous écoutent. 8h43.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, Christian Jacob, président des Républicains et mon invité ce matin. Vous êtes toujours dans la critique, Christian Jacob, dans l'opposition. Est-ce que c'est une critique qui n'est pas pavlovienne? C'est pavlovien ce que vous faites, c'est systématique, c'est pas constructif.
Oui, non, écoutez, Madame Mabrouk, non, parce que il y a, parce que, non, c'est non, il est, vous savez, quand, c'est facile de non, il y a rien. C'est normal quand on est dans l'opposition de critiquer, écoutez, enfin, parce que, moi, je. Mais, non, quand il y a des bonnes choses, nous les disons, hein, dans l'opposition. Nous, mais
par exemple, quoi? Qu'est-ce que le gouvernement a bien fait pour vous?
Eh bien, par exemple. Mais non, mais quand il y a des bonnes choses, nous les disons. Je ne m'explique pas comment ces vaccins, on a un raté total sur ces vaccins. Hein, on a déjà raté les tests. Ce gouvernement a raté le déconfinement. On a déjà raté les masques. Je ne comprends pas pourquoi on est toujours le mouton noir ou enfin, il sait pas.
Mais alors, dites-nous, mais vous êtes dans la critique systématique.
Mais non, il y a pas de c'est vous qui me critiquez systématiquement là j'ai toutes les syllabes ma bro.
Allez, à vous Julie.
Merci à tous les deux. Grand moment. Allez, on va retrouver Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Oui, bonjour chère Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité ce matin, c'est bien sûr Jimmy Mohamed qui nous dit qu'il faut, pour mieux dormir, éteindre la lumière. Ça, c'est la première info du matin. Mais il y a d'autres infos ce matin. Merci de ces conseils, parce qu'il y a beaucoup de cons qui gardaient la lumière allumée pour dormir. Allez, ce matin, c'est bien sûr ce... On sent qu'il est au bout du rouleau, Jimmy. Ouais. Alors, l'actualité ce matin, il me tarde d'avoir le prochain sujet pour demain. L'actualité, c'est bien sûr ce couvre-feu à 18h. Stanislas Guérini l'avait un peu avoué, d'ailleurs, hier, avant l'annonce officielle. Il avait dit, je cite... L'idée, c'est de lutter contre l'effet apéro. Voilà, l'effet apéro.
Ah, bah oui. Non, si. Non. Oui, je suis en train de faire du Christian Jacob. Non, ça va plus, là. Ça va plus. Ça devient, moi, je pense que ça devient une attaque personnelle, là. Je suis pas paranoïaque, excuse-moi, Julie. Mais déjà, le gouvernement dit qu'il est surpris par le froid, là, il y a quelques semaines, alors que j'annonce l'hiver tous les jours. Mais après, deuxième étage de la fusée, c'est la fermeture des bars. Et puis maintenant, 3, c'est contre l'apéro. Non, mais écoutez, moi, je vous le dis, ça. Non. Oui, si, parce que non, mon Dieu. Ça se passera pas comme ça, voilà. Non, ça se passe pas. Ici, Mazamé. Ici, il m'a zamé. Les bons vivants parlent aux bons vivants. Les cacahuètes sont dans le bol. Je répète, les cacahuètes sont dans le bol. Le tire-bouchon a les bras levés. Vous avez l'image, hein? Oui, monsieur tire-bouchon. Oui. Je répète, le tire-bouchon a les bras levés. Oui, mais quand on dit deux fois, c'est moins drôle. Ah non, Julie, Mathieu, moi je suis un résistant dans l'âme. Hein. S'il faut relancer le marché noir, ben on va relancer le marché noir, voilà, c'est tout. Hein.
Allez, on relance le marché
police,
noir.
Police, ouvrez, on sait que vous planquez des apéricubes, là.
Merde, j'ai les flics au cul, j'ai les flics. Mathieu, vous voulez me rendre service, là, j'attends un parachutage de saucisses cocktail. Je peux donner votre adresse au pilote? Il largue ça dans votre jardin. Hein. Vous planquez tout ça dans votre garage, ni vu ni colis. C'est pour la France, Mathieu. Allez, et puis demain, j'ai des copains qui ont prévenu de détourner une citerne de Ricard pour provisionner toute la région. Non, on va pas cesser de marcher dessus, Mathieu. On le savait pas, mais en Europe, on a recruté le Pablo Escobar de l'apéro. Allez, Laurent, mais oui, Laurent, c'est le Tony Montana du Beaujolais. C'est le Mestrine des olives noires. Allez, à vous, Julie.
Merci. Magnifique, merci beaucoup. Allez, évidemment, on va revenir sur l'annonce de ce couvre-feu à 18h avec le Premier ministre. On est en ligne avec Jean Castex. Bonjour.
Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Béliard, Monsieur Mohamed. Bonjour à papy, mamie qui désormais en couvre-feu à 18h. Hein, à 18h, on éteint la lumière, comme l'a dit Jimmy Mohamed. Un suppôt et on va au lit. Et si vous vivez en EHPAD, vous gagnez une demi-heure, vous rendez compte, par rapport à l'heure du coucher habituelle.
Alors, on revient sur la remarque de Stanislas Guérini. Évitez l'effet apéro. Mais c'est quand même fou. Hein. Les Français ne passent pas leur temps à faire des apéros entre eux, enfin.
Mais ils ne se passent pas du temps à faire des apéros entre eux, Madame Julie. Hélas, si.
Si. Moi, par exemple, j'en fais pas, non.
Ah, vous n'en faites pas.
Non.
Je comprends votre déception de découvrir que vous n'êtes pas invité, mais hélas, si. De nombreux Français, Madame Julie, font des apéros. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le couvre-feu entrera en vigueur à 18h, mais aussi pour laquelle nous déclarons illégaux, je le dis sur votre antenne, c'est un scoop. Le saucisson Justin Bridoux, les chipsters Belin, les Spritz et les parasols Ricard sont déclarés illégaux sur notre territoire.
Ok. Et vous avez annoncé la création d'un numéro vert pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour se faire vacciner.
Exactement. En appelant ce numéro, vous connaîtrez ce numéro vert.
Oui.
Vert parce que c'est la tendance. Vous connaîtrez le numéro de votre centre de vaccination. Je vous sens dubitative, madame. Écoutez, je peux le tester devant vous. Hein, allez, regardez. Monsieur Cabrol, monsieur Béliard, c'est enfantin, regardez.
Bon, allez-y.
Allez, on a.
Bonjour. Vous êtes bien au numéro vert gouvernemental spécial vaccination. Pour connaître le centre de vaccination le plus proche de chez vous, donnez votre numéro de département.
75.
Après le bip sonore.
Ah,
c'était après le bip sonore. Oui. Ah, 75.
Vous avez choisi 75. Le centre de vaccination le plus proche de chez vous est à Paris. Pour être mis en relation avec ce centre de vaccination, tapez votre numéro de sécurité sociale. Une fois terminé, vous recevrez un SMS contenant un lien vous invitant à prendre rendez-vous sur Doctolib.
Voilà.
Cliquez alors sur le lien et connectez-vous à votre compte sur la plateforme Amélie.
Ah merde.
Vous trouverez ainsi votre référence dossier, également téléchargeable sur 3615 tous anti-Covid. Envoyez celle-ci par mail à l'adresse suivante. Centre-vaccination-. Indiquez alors votre numéro de département @sécu75.gouv.fr. Attention, si votre numéro de sécurité sociale est impair, vous pouvez raccrocher.
Ah merde, mon numéro, il est impair. Mon numéro sécurité sociale est 1-5-15-1-5.
Vous avez demandé la police, ne quittez pas.
Attendez.
Ne quittez pas.
Oh là, ça s'emballe. Je vais revenir au sommaire. Voilà.
Good morning and welcome to the green number
of the French government.
Oui, bon, ok, là on a coupé, ça va. Oui, bon, vous trouvez, voilà. Non, ça, là, c'était un peu rapide, je vous en conviens. Vous trouverez tous les numéros dans l'annuaire, au besoin, hein, pas besoin d'être esclave comme ça de la technologie.
Merci beaucoup, Jean Castex.
Oui, au revoir à tous les papis et les mamies.
Lors de sa conférence de presse hier, le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour à votre joyeuse Mala. Quelle bonne humeur ce matin. Bonjour au docteur Abdallah James Dean.
C'est quoi,
bonjour.
Ça mais d'où ça
oui,
sort
oui, on a cherché
enfin...
longtemps. Oui, oui. Et bonjour.
C'est n'importe quoi. Allez-y, Marine.
Et bonjour, bonjour à toi, jolie métisse. Oh, quelle beauté. Heureusement que tes ancêtres se sont rencontrés avant le renforcement des contrôles aux frontières du gouvernement. Un scandale, d'ailleurs, ce renforcement des contrôles aux frontières.
Hein? Un scandale, les contrôles aux frontières. Mais c'est vous qui dites ça, en plus.
Bah, ne soyez pas dupe, madame. Allons. Tout ça est uniquement fait contre moi pour m'handicaper pour 2022, voilà.
Non, enfin, mais non, je comprends pas.
Mais non. Non, mais écoutez, réfléchissez, Gourgandine, enfant.
Ça
long.
Suffit, oui.
Bon, écoutez, on a à peu près le même âge. Si on renforce les contrôles aux frontières, il n'y a plus d'immigration. S'il n'y a plus d'immigration, sur quoi je surfe pour la présidentielle? Hein, sur le dos, sur le dos de qui je vais mettre les problèmes? Hein, si ce n'est pas les étrangers.
Eh ben, tiens.
Je vais pas choisir une région, je me vois pas dire tout est la faute des Corses, voilà. Vous voyez, ça ne sonne pas bien, ça ne sonne pas.
Non. Bah tiens, puisqu'on vous tient là, votre père, Jean-Marie Le Pen, a eu le coronavirus et il en a été guéri, hein?
Oui, malheureusement, oui. Enfin, je veux dire, malheureusement, oui, il a eu le virus.
Oui. Il dit qu'il n'a quasiment pas eu de symptômes, d'ailleurs.
Oui, écoutez, ça, il faut le dire vite, il a été odieux.
Ah,
odieux. Ah, il a perdu le goût, l'odorat et plusieurs occasions de fermer sa gueule. Oui, parce que... Non, parce que je vais vous dire une chose, il a été encore plus raciste et antisémite que d'habitude. Aux analyses, on nous a dit qu'il avait attrapé un variant, le variant allemand de 1945. Oh. Odieux, je vous dis.
Bravo Nicolas Cantrou. Bravo Nicolas, bravo Julie. On retrouve la revue de presse que sur Europe1.fr. Et on salue Philippe Cabrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. Évidemment. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu. On va parler dans Culture Média aujourd'hui de 9h à 11h. Vous connaissez le marché cognitif? C'est le flot d'infos et de contenus qui capte notre attention. Par exemple, tout ce qu'on voit sur les écrans. Sauf qu'aujourd'hui, cette proportion de contenu est tellement élevée qu'elle provoque une chute de notre temps de cerveau disponible, comme on dit, très dangereuse pour l'avenir de notre civilisation. C'est la thèse de notre invité Gérald Bronner. Il est sociologue et auteur du livre Apocalypse cognitive.
Wow.
Au sommaire également, rien que ça,
et
vous
bonne
avez
année,
raison.
Hein.
Et bonne année. Franck Sora, le producteur, fondateur de Carson Prod, il va nous parler de La Lettre qui revient samedi sur France 2 également, de ses très bonnes audiences. C'est lui qui a fait le plus gros score de fiction. C'était en la fin du mois dernier. C'était Muriel Robin. J'avais pas écrit ça dans mes notes, je le cite de mémoire. Et puis aussi Plastic Bertrand.
Cool.
Ça plane pour moi, vous connaissez ça?
Bien sûr.
43 années que ça tient ce tube. Il vient pour son 10e album. C'est pas de la compilation. C'est un vrai album avec des nouveaux morceaux. Il y a les gens d'Imagination. C'est influencé par Telex et des groupes comme ça. Et vous savez quoi? Même Libé en dit du bien.
c'est dire. Non, Plastic Bertrand dans Culture Média, c'est un événement.
C'est un événement.
Avec Philippe Vandel, la matinée qui continue. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, un très beau week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller samedi, dimanche. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.